Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui avec Flavie, Flavie à la pêche.
Salut.
Et aujourd'hui nous avons un invité de luxe, le professeur allemand Osmater, le fameux créateur du système, le système d'Osmater. Monsieur Osmater, bonjour, guten Tag.
Guten Tag.
Bonjour.
Puisque vous parlez allemand, on va devoir traduire vos propos. Alors qu'est-ce que vous conseilleriez aux rôlistes?
Ja, also, bereitet so spät
durch
Nacht und Wind,
que je me sente concerné. Il me paraît kind. Important.
Er hat den Knaben
oui, c'est cela,
wohl in den
que
arm.
Les rôlistes
er fasst ihn sicher. Er
type
hält
la
ihn,
cellule.
Ihn warm.
Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, on fait une campagne de Cthulhu, une campagne incroyable qui s'appelle Adrien.
Les cinq supplices.
Nous ne sommes que
quatre. Faut le dire en étant un petit peu plus sadique.
C'est que le début.
Très bien. Nous sommes avec Natacha. Natacha, ça va la pêche?
Oui, très bien.
Nous sommes avec Flavie, dont vous avez pu reconnaître la voix extraordinaire. Flavie, ça va?
Oui, ça va. J'ai une voix extraordinaire.
Absolument fascinante.
C'est très bien.
Une voix fascinante. De quoi qu'il s'agit que ça?
Alors, il s'agit d'une campagne.
Pourquoi tu as autant de trucs sur la table? Il y a une espèce de boîte qui ressemble à une espèce de boîte de whisky.
Qui fait large. La taille d'un dictionnaire.
Ouais, la taille d'un dictionnaire.
Un gros dictionnaire.
Un écran incroyable qui se déploie sur un mètre de large.
Et qui, en termes de hauteur, ressemble à celui de Sens, d'ailleurs.
Des tas de cartes, des
morceaux de papier à découper.
Des recettes
de cuisine.
Livrées
dans tous les sens.
Moi,
une
ce que je
de
vois
cuisine.
De là aussi, c'est qu'il y a un petit tas de feuilles énorme. Quand je dis petit,
Natacha me faisait l'article de la sacoche. Regarde, Flavie, cette magnifique sacoche, tout de cuir.
Oui, il m'a montré.
Avec
le symbole.
C'est extraordinaire. Vraiment
fascinant. C'est
vrai. Sinon, il vient de le constater.
Ouais, j'avais pas fait gaffe.
Et puis il se passe quelque chose aujourd'hui dans ce podcast. Adrien a perdu ses cheveux, ça je tiens à le dire.
Je sais où ils sont, il n'y a pas de problème. Hein.
Ils sont restés chez le coiffeur.
Non, ils sont restés chez mes parents.
Ils sont à Toulouse actuellement.
Incroyable. Alors donc.
J'aime bien le côté cheveux fous sur le devant qui.
Des fois le matin, je ressemble vraiment, vraiment à un super saiyan.
Ouais, c'est
mais
non,
vraiment.
Moi, je trouve ça cool.
Je trouve que t'as la même.
Super Drien, quoi.
Ouais, et mon ombre, des fois, fait l'ombre de Tintin.
On va parler de l'ombre tout de suite, dans pas longtemps.
Donc, une campagne de Cthulhu qui a bien commencé, hein, puisqu'on on a déjà commencé à se prendre la tête pour les personnages tout à l'heure.
C'est ça. Alors, à dire, donc c'est une campagne de Cthulhu V7 qui est écrite en français, enfin l'auteur est français, c'est pas une campagne traduite.
D'accord.
Et je crois que c'est la première pour Cthulhu V7, un truc comme ça.
D'accord.
Qu'est-ce que je peux en dire? C'est issu d'un crowdfunding auquel je n'ai pas participé parce que l'histoire de comment j'ai récupéré cette sacoche est aussi une histoire de cultiste.
Il paraît que c'est croustillant. Ouais. Tu viens de nous raconter tout
et,
ça.
Et donc voilà, donc c'est, je pense, on peut dire que c'est le summum du fluff de ce que peut faire une campagne de crowdfunding.
Ah oui, là, de toute façon, tu nous aurais pas dit que c'était du crowdfunding, on s'en serait douté.
Parce que là, il y a les livrets de la campagne, il y a une carte par PNJ, sachant que je dois en avoir, je ne sais pas. 200.
Quand on dit les PNJ, ça peut être le chauffeur de pousse-pousse.
Ouais, c'est ça. Ça peut être le mec que si jamais vous allez au port de cette ville où vous passerez juste 10 minutes, ben vous pourrez rencontrer le capitaine de tel navire. J'ai la carte. Enfin voilà, c'est un peu de ce niveau-là. Quoi.
Et là, justement, on a fait des scénars solo hein, avant de commencer cette campagne.
Ouais.
Là, on vient de les terminer. Et à chaque fois, en fait, qu'Adrien introduit un personnage, il pose devant nous.
Moi, j'ai pas vu de personnage, moi.
Ah, c'est très. Ben, oui. C'est vraiment dommage parce que ça fait partie quand même de l'ambiance. Moi, je trouve ça, ça apporte un vrai plus d'avoir le personnage avec son visage.
Penser à un truc que tu disais quand on avait fait de l'œil noir, le fait que quand tu poses en fait la figurine, on voit le personnage. Il y a un petit truc en plus qui se déclenche.
C'est pas inintéressant.
Ça permet d'avoir des images aussi qui sont plus directes et puis
c'est
compliqué. Mais une campagne où il y a autant de personnages et surtout une campagne où ce qui est entre guillemets réaliste, je veux dire, c'est pas on n'est pas dans les Chevaliers du Zodiac où t'as un mec avec une armure rose, un mec avec une armure bleue et tout ça. Là, c'est des gens qui sont habillés de façon random. Ça va être des hommes, des femmes des années 30. Ben pour différencier deux hommes des années 30, quand on est au 20e personnage qu'on rencontre, ben la photo ça aide.
On peut imaginer une scène par exemple dans laquelle le MJ déploie l'ensemble de ses cartes sur la table et nous dit ben voilà, vous arrivez à une réception, tous ces hommes sont présents à la réception. Est-ce qu'il y en a pas un qui vous dit quelque chose? Et là du coup, vu que le MJ nous a présenté à chaque fois, tu vois, les cartes des personnages, bah ouais, on peut vraiment les reconnaître en tant que joueur. Ça, je trouve, ça crée une espèce de synesthésie, ça peut être intéressant. Non, et puis surtout, ça passe au MJ, cette longue description qui pourrait avoir lieu à chaque personnage, où tu dois décrire chaque élément. Là, au moins, le hop, tac, là, tout à l'heure, par exemple, on avait une espèce de scène d'action. Bon, bah, Adrien, en positionnant son personnage, nous dit, paf, ce chinois, en plus, c'était un japonais, c'était un japonais. Ce japonais arrive devant vous, il sort un couteau. Et du coup, il n'a pas besoin de dire, il dit ce japonais au lieu de nous le décrire longuement. Et c'est quand même vachement immersif.
J'ai peut-être bien fait d'aller faire la vaisselle, vu ce que tu racontes.
Ah oui, je te jure, on a vécu des trucs incroyables.
Ce qui est rigolo, c'est que de l'autre côté des cartes, il y a quelques infos pour le MJ qui vont être, c'est qui en quelques mots-clés dans la campagne, c'est quoi ses objectifs en tant que PNJ, et puis après quelques mots-clés pour le décrire. Là, par exemple, j'en ai un qui est aimable, silencieux et désorienté. C'est-à-dire que quand je vais le jouer, ben, je sais que je vais pouvoir jouer un personnage un peu à l'ouest, qui parle pas beaucoup, mais qui sourit tout le temps.
Voilà. C'est Lunel du coup,
c'est... Non, mais c'est tout bête, mais c'est vrai qu'un PNJ, pour qu'il ait du corps, il faut qu'il ait
des petits traits caractéristiques.
Et ça, c'est un bon moyen pour les avoir assez rapidement sans avoir à trop réfléchir. C'est vrai que quand tu lis la campagne et que tu vois ça à chaque perso, tu te dis, mais à quoi ça va me servir? Ça fait quand même beaucoup. Là, je veux dire, c'était des hommes de main d'un mec qu'ils rencontreront peut-être pas. Bon, après, voilà, c'est ça. Le moment où tu en as besoin, bah, tu es bien content de les avoir.
Donc, le système de résolution, c'est toujours notre bon vieux système Chaosium des familles.
C'est ça, avec V7-isé. Quelques petites nouveautés. Alors,
c'est quoi les nouveautés de la V7, alors, Adrien, rapidement?
J'ai pas tout lu, parce qu'en fait, quand tu lis un bouquin de Cthulhu et que tu vois que c'est la même chose qu'avant, tu zappes beaucoup de choses. Donc moi je me suis arrêté sur les éléments dont il parlait régulièrement dans la campagne, donc notamment il parlait de dés de bonus et des malus, donc en gros il y a des circonstances où vous allez avoir des bonus ou des malus de circonstances, typiquement genre vous connaissez le point faible de tel perso, ben, quand vous essayez de le casser mentalement, ben, vous aurez un dés bonus. Le dés bonus c'est en gros vous jetez 2 dés dizaines et vous choisissez celui qui vous arrange, et le dés malus c'est vous jetez 2 dés dizaines et vous prenez celui qui vous arrange pas.
Très bien.
Voilà, ça c'est le premier truc. La deuxième nouveauté qui moi je trouve intéressante parce qu'elle pallie un petit peu le défaut classique de Cthulhu, c'est vous avez le droit de refuser le résultat d'un jet de dé relancer le dé, mais à ce moment-là on augmente les enjeux. Par exemple, vous êtes en train d'intimider quelqu'un, vous ratez, je vais vous dire, bah écoutez, tu peux réessayer, mais si tu rates ce coup-ci, le mec il te fout un coup de poing direct et tu prends les dégâts sans qu'on fasse de jet de dé. Par exemple.
Et moi j'ai refusé, moi.
C'est de l'enchère en fait.
C'est ça, c'est une forme d'enchère. Ce qui est intéressant pour un jeu où le hasard a autant de poids. Bah, ça permet d'avoir un petit peu de contrôle sur les événements qui sont vraiment importants pour les personnages. Alors après, est-ce que ce petit changement, ça suffit à faire évoluer tout le jeu? Je ne sais pas. On aura l'occasion de voir ça pendant la campagne, je
Absolument.
Pense.
Oui, moi j'ai noté aussi... Alors moi, il faut savoir que la dernière version de Cthulhu à laquelle j'ai joué, c'est la 5.5, je crois.
Faux ça. On a déjà joué la V6 ensemble.
Ah oui, exact, on avait joué à la V6, mais je ne me souviens
mais
pas.
Ça ne changeait quasiment rien.
Ouais. Alors une chose est sûre, c'est que moi... Quand je vais comparer à chaque fois cette version de Cthulhu à une autre version, je parlerai de la cinquième parce que vraiment c'est celle que je connais le mieux et avec laquelle je suis le plus
pareil,
familiarisé.
Mais pareil, au final, c'est ce qui est assez rigolo aussi en lisant cette campagne, c'est que ça a été développé avec la V6 en fait. Ça se sent sur plein d'endroits.
D'accord.
Parce qu'en fait, il dit ben là, les tables d'armes, vous pouvez utiliser celles de la V6 et aussi celles de la V7, les valeurs de dégâts sont compatibles. Mmh. Et il y a plein de moments où on voit qu'il fait référence à la V6 et en D'accord. disant vous pouvez aussi faire avec la V7. Donc il y a des éléments de règles un peu des deux qui viennent. De toute façon, pour une campagne qui est sortie, je sais pas exactement quand, mais quelques mois, peu de mois après la sortie de la V7, ils n'avaient pas le temps de développer tout un truc juste sur la V7.
Bien sûr.
C'est compliqué.
Il y a déjà des trucs qui nous ont fait vraiment grave fait chier dès le début dans le système, dès le départ. Moi, il y en a, je veux en parler dès maintenant. À la création du personnage, donc, j'ai fait des jets de dés sur mes 5 premiers jets de dés qui, comme vous le savez, donnent lieu aux caractéristiques de pouvoir, de force, de dextérité, de constitution. J'ai fait en fait des jets qui étaient très déséquilibrés, c'est-à-dire j'ai fait 2 jets à 8, 2 jets à 16 et un jet à 11, et j'ai choisi de les garder. Et donc j'ai choisi de répartir ces points en prenant en considération le fait que mon personnage était assez vieux, assez âgé. Donc j'avais mis en fait mes points en constitution, en dextérité, mes points les plus faibles en force, en constitution, en dextérité, et en apparence et en pouvoir, j'avais mis le max. En me disant, bah voilà, je vais jouer un vieil avocat qui est beau sur lui, etc. Et là, direct, en fait, donc Adrien me demande mon âge, et il me dit, Bah oui, donc tu as plus de 40 ans, donc tu vas...
Pas direct, justement. Après qu'on ait fait la fiche de perso, voilà. Justement, c'est ça qui est un peu embêtant.
Voilà, c'est que Adrien me dit, bon bah non, bah, vu que tu es âgé de plus de 40 ans, tu as les malus suivants. Donc Adrien, je sais plus ce que tu m'as dit.
Un point de mouvement en moins, 5 en force, dextérité ou constitution, un voilà. Des trois, et 5 en apparence en moins.
Mais c'est de la merde, ça. Parce que tu demandes à un joueur de répartir des points dans ses caractéristiques et tout ça. Donc, il prend en considération déjà son historique, s'il est malin, pour faire ça. Et là, après, tu vas lui infliger une espèce de double peine. C'est
là,
complètement
en fait,
débile.
Ça, c'est un vestige qu'on retrouve dans d'autres éléments des règles de Cthulhu et de beaucoup de jeux tradis. C'est en fait vouloir mettre ce que les rôlistes tradis appellent du simulationnisme, dans le sens pas GNS, c'est-à-dire simuler au plus proche la réalité. C'est-à-dire ouais. Se dire, ben oui, si t'es vieux, ben t'es un peu moins fort, un peu moins machin. Ah oui, si tu prends un empoisonnement, on va faire une règle spécifique pour régler comment tu te prends les dégâts. Si tu te nourris pas pendant X jours, comment on le règle. Et en fait, ils mettent plein de règles pour plein de situations qui arrivent trop ponctuellement ou qui sont trop secondaires dans
oui,
le
mais
jeu.
Là, moi, ça, j'ai rien contre ça.
Mais c'est la même chose ici, en fait.
Ah non, bah, moi, ce qui me pose problème, c'est que, justement, le joueur le prend en considération dans la création de son personnage en attribuant déjà ses caractéristiques en fonction de son perso.
C'est aussi parce que je t'ai pas expliqué tout le processus avant que tu le commences. Hein.
D'accord, ok.
Je pense qu'il y a un peu des deux. Pour moi, ces malus-là, ils sont même mauvais si, je l'avais dit dès le début.
D'accord, ok.
Parce que c'est du détail de règle qui a un impact moindre, minime, qui apporte rien.
Alors dans le même du même acabit, le problème avec la caractéristique crédit Natacha donc
ouais, mais ça, c'est,
alors
ça,
là, ça, là ça tient ça, au ça, problème c'est... que quand j'ai fait le perso, Adrien avait oublié cette règle là, du coup j'ai réparti mes points
en train de lire les règles quoi, donc bon
j'ai réparti mes points sans savoir ça, et c'est après que j'avais réparti mes points, j'avais choisi toutes mes caractéristiques où j'étais trop contente et tout ça, et ouais j'ai fait le score de tel, voilà. Ah bah non, il faut que j'abandonne telle caractéristique et telle caractéristique parce qu'il faut que j'ai minimum 50 en crédit. Super.
Ouais, d'accord. Ouais. Parce qu'en fait, il y a en fonction de la profession qu'on exerce, il va y avoir des points minimum à mettre dans le crédit.
C'est ça.
Mais bon Dieu, mais pourquoi vous nous les donnez pas ces points? Pourquoi vous nous les donnez
alors,
pas?
Ils sont peut-être donnés. Hein. Vraiment, pour être honnête, j'ai pas lu toutes les règles hein, parce que pour moi, Cthulhu, pareil, c'est la V5. Donc en fait, ce genre de truc, ça doit se comporter comme ça et je vais pas me faire chier à me taper le pavé de 400-500 pages pour faire une campagne. Quoi. C'est pas possible. Déjà que la campagne, j'ai eu de la lecture pendant des jours. Donc on pourra regarder
après,
ça.
Après,
si vous voulez.
Je te dis, il existe autant de versions.
Ce que j'aimerais dire, c'est
que
ça serait dommage de juger. En fait, je pense pas qu'il faut qu'on utilise cette campagne. Natacha, laisse-moi parler, s'il te plaît.
C'est des rillettes.
Ça serait dommage d'utiliser cette campagne pour juger de la V7 et pas de la campagne.
Non, on va juger la campagne, mais
je préfère qu'on juge la campagne que la V7.
La première chose
qu'on
qui
va
me
pas la
choque
jouer,
d'entrée de jeu quand on joue à ça, c'est que déjà on a les gros fous rires, c'est-à-dire du système de jeu, enfin du système de résolution complètement foireux et dysfonctionnel de Cthulhu. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression d'avoir changé de jeu entre la V5 et la V7 là.
Je vous propose un petit pari. Entre nous. Qui dure le plus longtemps?
Sans rire,
qui dure le plus longtemps?
Écoute, Natacha s'est déjà pris 5 points de dégâts. On n'a pas commencé la partie, elle a déjà pris 5 dans sa gueule. Je pense que Natacha est bien partie pour... Moi, j'ai déjà fait 4 échecs critiques.
Toi, c'est normal, c'est les dés.
Voilà, des 97.
Oui, mais non, mais moi aussi, j'ai ce problème avec les dés.
Vous faites-vous malin, mais c'est Favi qui a pris le plus cher pour l'instant.
D'accord, ok.
Ouais, je vous confirme.
Ok, d'accord.
Moi, ce que j'ai affronté, c'était quand même sacrément sale.
C'est bien, on a à peine commencé la campagne, on a déjà marqué.
Parce que tu n'as pas rencontré de PNJ humain, c'est ça.
C'est ça, moi, c'était pas humain ce qui m'a croqué.
Voilà. Et donc, on en parlait tout à l'heure, je pense qu'on va dire un petit mot avant de commencer à jouer. C'est comment est-ce que j'ai mis la main sur ce truc.
Ça, c'est le truc que j'attends dans ce podcast. Parce
qu'en fait, t'étais dans des catacombes aussi.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Et t'as rencontré un truc un peu chelou.
C'est presque typique. C'est presque une histoire de Cthulhu en elle-même. Quoi.
Ah.
Oui, c'est presque un vieux qui t'a donné une catacombe.
Nous avons une amie qui est docteur et chercheuse en biologie ou chimie ou biochimie ou un truc comme ça, je ne sais plus exactement.
Ouais.
Qui, il y a de cela 3 ans et demi, 4 ans, était à une conférence, à un congrès scientifique. Et elle a rencontré...
Désolée, je rigole parce que oui, en effet, ça fait... Vous allez bien loin de chez vous pour aller assister à un congrès de biochimie.
C'est ça. Et donc, elle a rencontré là-bas un gars. Je pourrais dire son nom, mais je préfère le taire quand même, parce que c'est beaucoup plus rigolo. Un chercheur aussi dans le domaine. Et ils ont discuté un petit peu, et notamment de jeu de rôle. Ça,
Harry Crowley.
Un peu sur le jeu de rôle. Mm-hmm. Depuis, donc ça fait 3 ans et demi, je rappelle, elle reçoit un mail par jour de cette personne.
Je vais vous montrer mon cahier.
Exactement. Elle reçoit un mail par jour de cette personne.
Oui.
Mais quel rapport avec Cthulhu et avec les 5 supplices,
vous direz-vous.
Regarde, maman, un psychopathe.
Et régulièrement, ouais, ce monsieur lui envoie à son bureau des cadeaux, donc genre des caisses de vin. Et récemment, deux fois le jeu, les 5 supplices, quoi. Deux fois la campagne. On a reçu deux fois la petite sacoche avec la campagne.
Creepy.
Et donc, un week-end où on l'a vu récemment, elle nous a dit bon, je ne sais pas quoi en faire, j'ai pas
elle
le temps de faire jouer.
Elle est en train de déménager.
Elle est en train de déménager, donc j'en ai récupéré un.
C'est faux ce que
tu
es en train de dire.
Tu veux qu'on l'appelle tout de suite, là? On lui demande sur le podcast.
Non, attends, c'est des conneries.
Mais
c'est quoi ce délire?
Et donc, elle a
une rencontre. Attends. Elle rencontre un mec dans un salon, une conférence, un truc comme ça. Elle parle avec lui quelques minutes.
Ouais.
Et le type lui envoie des cadeaux après toutes les semaines.
Après, c'est quand même une jolie nana, si tu veux. Donc, le mec, il a dû tomber amoureux. Enfin, je sais pas.
Et pourquoi il lui envoie les 5 supplices en 2 fois?
Parce qu'il a oublié. Il envoie un cadeau régulièrement. À un moment, il oublie les petits cadeaux qu'il lui fait.
Bah, parce qu'il sait qu'elle fait du jeu de rôle. Ils ont discuté de jeu de rôle à cette conférence il y a 3 ans et demi. Depuis, elle a dû lire genre son premier mail. Et puis, quand elle a vu le deuxième le jour d'après, elle a créé, je crois, un filtre dédié pour tout mettre dans un coin. Et voilà, on lui a conseillé de déposer une main courante. Hein. Je ne sais pas si elle l'a fait.
Moi, je
ou
pense
pas,
que c'est une très bonne idée. Ouais.
Je ne sais pas si elle l'a fait. Il faudra qu'on lui en reparle parce que.
Et c'est surtout le mec, il lui envoie son boulot.
C'est-à-dire que là, en fait, on teste une campagne un petit peu maudite. Enfin, je sais pas.
Ouais, spécial.
Qu'est-ce qui va se passer
je sais pas.
Au terme
je
de cette.
Attends, il lui envoie son boulot, pas chez
son
elle.
Boulot, ouais, à son boulot.
Et quand elle rentre tard le soir, elle a pas les boules quand elle descend à sa voiture.
Putain. Et est-ce que le MJ lui a montré
Attends, 3 ans et demi sans avoir eu aucune réponse.
Exactement.
Et le mec continue à lui envoyer
des
trucs.
Exactement. On appelle ça. Je sais pas comment on appelle ça, mais du harcèlement sans doute.
Du harcèlement, ouais, ça s'appelle du harcèlement.
La vache.
Hey mec, sors de chez toi, tu vas rencontrer une autre nana dans un bar.
Alors très rigolo, on pourra s'amuser ça
mais
tout à l'heure.
Mais est-ce que c'est un rôliste
j'ai un ami qui a googlé son nom et son prénom, et il paraît qu'il a un blog qui est complètement perché aussi. Mais ça sera entre nous parce que...
Alors, attends,
son prénom c'est tout ce que je vais dire. Voilà, si vous connaissez des méfiez-vous.
Il lui envoie des trucs sympas, genre des bijoux, des trucs qu'elle vend.
Les deux exemples qu'elle m'a donné, c'est une caisse de bouteilles de vin et Cthulhu. Mais elle a dû peut-être recevoir d'autres choses. Je sais pas si elle en a reçu beaucoup ou pas. Je sais pas trop.
Et il y a des gens, ils sont seuls. Hein.
Oh là là, je vais vous montrer mon cahier. Bon, et ben en tout cas, on va se faire la campagne de Cthulhu maudite. On va voir.
Pas tout d'un coup, mais on va faire un petit peu.
On te remercie, merci.
Tu prévois combien de séances?
Je pense que par bouquin, il faut 2 parties, grosso modo.
Mm.
Et il y a 6 bouquins, mais le premier, c'est vraiment juste la présentation de la campagne. En gros, là, par exemple, juste les scénars solo qu'on a fait, c'est le premier bouquin. Voilà.
Mm, d'accord.
Donc là, on commence le deuxième. Normalement, je pense en 2 parties, on le finit.
Mm.
Et donc, au total, ben, 10 parties à la louche. Hein. Après, il y a beaucoup de pistes sur à quel moment mettre d'autres éléments, à quel moment meubler, à quel moment raccorder ça à d'autres campagnes éventuellement.
Ça va être vraiment intéressant parce que moi j'ai fait beaucoup de campagnes de Cthulhu, j'adore, donc je vais pouvoir justement essayer de juger aussi en fonction des autres dans la continuité.
Et moi en revanche, j'ai jamais joué une seule campagne de Cthulhu officielle. J'ai
moi,
beaucoup joué à Cthulhu
jamais
sur des scénars
de fait de campagne non plus,
c'est
je
vrai
suis toujours morte à la fin.
Ah ouais, ok. Ouais.
J'ai toujours fait des one-shots moi.
C'est tellement
alors bien. Moi dans les points que je vais aborder un petit peu juste avant qu'on commence, il y a un des reproches que je ferai à la campagne, c'est qu'il y a peu de conseils du MJ sur quoi dire aux joueurs en commençant la partie. Et vraiment dire pas commence pas, parce qu'il y a des conseils sur comment se passe normalement cette campagne.
D'accord.
Mais ils disent pas comment en parler aux joueurs. Et moi je vais vous en parler. C'est une campagne qui est très dirigiste.
Mm-hmm.
Parce que forcément, enfin c'est pas forcé si tu veux, mais elle est très dirigiste donc. Je vais vous demander d'être participationniste, c'est-à-dire
un vieux
agoniste
attends,
dans un coin, vous allez le voir.
On a joué une scène incroyable, c'est-à-dire à un moment donné j'étais perdu dans une université, il faisait noir, etc. Et là, Adrien me décrit, il y a une porte avec de la lumière derrière, un raid de lumière qui passe. Et là, pour rigoler, je dis à Adrien, je passe mon chemin.
Voilà, donc ça c'est ce qu'il faudra pas faire dans la campagne.
Ah non, mais attends, c'est participationniste, hein, tu vas. Mais oui, je disais ça pour rigoler.
Et le premier truc que tu m'as dit quand on a commencé à jouer, c'est je te préviens, c'est très dirigiste parce qu'évidemment, je démarre dans des catacombes et je me pète la gueule dans un trou, quoi. Et ça, hein, mais j'ai réussi mon jet. Ouais, mais non, tu te pètes la gueule, mais tu te fais pas mal. Ah, merci, donc fallait que j'aille dans le trou. Ouais, faut que t'ailles dans le trou. D'accord, je vais dans le trou.
En tout cas, on s'apprête à bien rigoler.
Et donc, voilà, donc le deuxième point que je vais te dire, parce que je pense que c'est important sur que vous approchiez la campagne avec le bon regard, c'est que ce que dit l'auteur, c'est que c'est une campagne qui est peu meurtrière.
Ouais.
A priori, vous allez jouer les mêmes personnages jusqu'à la fin.
D'accord.
A priori, Natacha.
Voilà. Donc, non, mais c'est important parce que du coup,
c'est mal parti. Hein.
Ça vous pousse pas à jouer trop prudemment en fait.
D'accord. Ouais. Ouais,
soyez un petit peu aventurier, un petit peu curieux, un petit peu.
En gros, s'il y a une porte qui mène à la cave, on prend la porte qui mène à la cave.
Ouais, après, n'ayez pas peur de le faire dès le deuxième scénario.
On va pousser quelqu'un d'autre dedans.
Après, encore une fois, hein, ça fait vraiment partie du contrat social de Cthulhu. C'est écrit dans l'appel de Cthulhu. Vous êtes des investigateurs. Ouais. Vous devez vous rendre sur les lieux. Vous devez enquêter. Vous ne serez satisfait en tant que personnage que si vous parvenez à résoudre l'affaire. C'est vraiment écrit. Au début de la V5, il y a un texte qui est très bien fait, qui explique vraiment ça très bien.
D'accord, ok. Donc, alors après, c'est peut-être parce que moi, j'y ai joué de plusieurs façons différentes. Et du coup, des fois, le comportement parano est encouragé. Des fois, non. Donc, voilà. Donc, en tout cas, je voulais vous le dire, histoire qu'on soit clair.
Très bien.
C'est parti.
On y va.
Ça roule. Ta-ta-ta-ta-ta-ta.
T'es complètement dégueu. En fait. Ok. Fin de la partie. En fait, on a terminé hier. J'arrête de bluffer. Voilà. On a fini hier.
On a dormi entre
les trois premières. J'allais dire épreuves. Les trois premiers scénarios des cinq supplices. Alors, qui veut se lancer ? Moi, je veux bien raconter le contenu fictionnel de mon point de vue.
Le quoi ?
Le contenu fictionnel malléable de mon point de vue.
Le quoi ?
Le contenu fictionnel malléable, mais de mon point de vue.
Le quoi ?
Le contenu fictionnel.
Ça peut durer longtemps, les gars, là. Hein. Oui,
donc, en gros...
Raconte ce que tu as vécu.
Nous sommes des personnes, des Français apparemment, c'est sauf Flavie qui est anglaise. Toi, tu es une artiste de cabaret, Fly.
Une artiste de cabaret étrange, une médium qui fait bouger les tables, dont le mari est mort en les laissant riches et libres, et du coup, elle s'est mise à s'amuser. Quoi.
Fabuleux. Natacha, tu es une... J'ai envie de dire la fille d'un commercial qui s'occupe de ses affaires.
Voilà.
Quelqu'un dans l'import-export.
Dans l'import-export, entre la Chine et la France. Voilà.
Ce qui est intéressant, c'est les choses que tu as dans tes caisses, mais tu n'as pas révélé encore à
tout
Flavie.
Pas de raison.
D'ailleurs, depuis le début du scénar, j'avoue me demander si tu fais pas par hasard du marchandage d'esclaves ou un truc un peu sale. Hein,
Nous verrons. Peut-être un jour, vous le saurez. C'est un commerce un petit peu particulier. Et nous sommes invités au Théâtre des Ombres. Moi, je suis un avocat assez standard, un espèce d'Hercule Poirot avocat, si vous voulez, pour faire simple. Puis on est invité au Théâtre des Ombres, un petit spectacle donné par un artiste chinois à Paris, dans le quartier chinois, derrière la gare de Lyon et compagnie. Il me semble, hein, non ?
Je crois que c'est par là, ouais.
Ouais. Il se passe... donc, ce que j'aime beaucoup déjà dans cette introduction, c'est que le théâtre chinois, donc c'est un début immédiat, c'est-à-dire que Adrien nous conte le récit que l'on entend au théâtre.
Sans que vous sachiez encore que vous êtes au théâtre.
Sans qu'on sache exactement qu'on est au théâtre.
Tout à fait.
Et donc ça donne une espèce d'introduction très bizarre, on a l'impression que c'est le début d'un espèce de Conan, vous savez, comme dans le début de Conan où il y a ce conteur qui nous raconte les
au
temps
premier temps du voilà, monde. Le chaos régnait.
Voilà. Et à la fin du speech d'Adrien, il me dit, bah, en fait, ça, c'était une représentation théâtrale à laquelle vous venez d'assister. En fait, cette représentation théâtrale nous parle déjà de rançonneurs de droits divins, de...
Et pendant l'intégralité du scénar, dès que vous disiez rançonneur de droit divin, je pensais rançonneur des lilas. Et à chaque fois, du coup, j'avais juste envie de me marrer.
C'est le poinçonneur des
ouais,
des
je sais. Moi,
je pensais
au
moissonneur de... Comment ça s'appelle
De Mass Effect.
De Mass Effect, tout à fait. Auquel je n'ai jamais joué, mais juste j'en ai entendu parler.
Ouais, je comprends.
On sent que cette pièce de théâtre, ce jeu, c'est un jeu
d'ombre,
en fait.
D'ombre,
c'est un théâtre d'ombre.
C'est des petites figurines en cuir ou en bois ou en carton
papier.
Qui sont animées derrière un écran de papier translucide et qui fait du coup des jeux d'ombre avec une voix qui joue en fond, de la musique.
Etc. Et on sent qu'indirectement, cette histoire que tu es en train de nous raconter à travers ce théâtre d'ombre, en fait, ça va être l'histoire des du mythe en fait qui va être derrière tout notre toute notre campagne. Alors ça, j'ai trouvé ça fabuleux. Je sais pas si est-ce que vous voulez faire un premier tour de table pour décrire.
Je trouve ça un ressort de cinéma qui marche bien pour le coup dans le cinéma dans le jeu de rôle traditionnel où tu démarres avec une sorte de cinématique qui finalement s'intègre dans l'histoire que les PJ vont démarrer, et oui, ça marche bien, parce que ça te met dans l'ambiance, et puis du coup, tous ces mots qui ont été utilisés, tu vas les rechercher ensuite pendant le scénario.
Il y a un côté méta que moi aussi j'aime beaucoup, que je trouve intéressant. Puis il y a le rideau qui se lève, c'est le début de l'aventure, quoi, pour nous aussi.
Ouais, enfin, on
entre en scène, nous, quoi, c'est ça.
Ça me fait penser, tu sais, à ce que tu racontais au sujet de ce film d'action décrit par le Fossoyeur.
Ah, le truc de.
Qui commence dans une scène.
À la Maison Blanche.
Oui, c'est ça.
Pas Attaque à la Maison Blanche, mais un truc comme ça. Où le film, en fait, le film démarre normalement. Et je vous conseille parce que c'est un très bon film d'action qui, au niveau de la réalisation, est très bien fait.
Ouais, moi, je dirais pas ça, mais.
mais en fait, le moment où on voit les méchants, pour la première fois, ils sont présentés dans le cinéma. Et voilà. On sait qu'ils sont en train, devant je sais plus quel film. Et le fait de voir les méchants là, dans le cinéma, où c'est pas caché que ce sont les méchants, on sait que l'histoire va démarrer et va reprendre, en fait, tous les codes de l'action pour soit les utiliser, soit les casser.
C'est ça, c'est une sorte de mise en abîme, quoi.
Et la fin, en fait, se termine, le dernier gros boss, gros mini-boss, se termine justement dans cette salle de cinéma où il y a encore un film qui passe derrière.
La boucle est bouclée.
Où, du coup, on sait que du coup, l'histoire va s'arrêter plus ou moins là, ou en tout cas, l'histoire avec ces méchants-là.
Et c'est un petit peu la même chose, effectivement, avec ce début de campagne. C'est-à-dire que, comme l'a dit très très bien Natacha, on commence au théâtre et on va être nous-mêmes les acteurs d'une pièce de théâtre. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette première scène, elle trahit aussi un peu, à mon avis, à mon sens, le défaut des quelques premiers scénars qu'on a joués. C'est-à-dire que, comme on est spectateur du théâtre d'ombre au début dans cette première scène, eh bien, j'ai trouvé qu'au cours de ces trois premiers scénarios, on est aussi beaucoup spectateur en tant que personnage et en tant que joueur, bien sûr, puisque on voit l'histoire se dérouler sous nos yeux.
Mon ressenti, c'est que c'est très vrai pour le premier et le dernier, enfin pour le premier et le troisième, mais que dans le deuxième, vous avez quand même été beaucoup plus libre.
Le deuxième, c'est celui sur les quais de la gare.
Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais.
On a été libre dans le choix d'exposition des scènes. C'est-à-dire que c'était du contenu fictionnel organisable. C'est-à-dire qu'on a été voir.
Alors, dans le troisième, oui. Dans le deuxième, on reviendra peut-être plus en détail, mais dans le deuxième, il y a vraiment beaucoup plus de choses que vous pouvez ou non faire.
D'accord.
Enfin, vous n'êtes pas obligé de passer partout, vous n'êtes pas obligé de parler à tout le monde. Vous pouvez avoir des infos que vous n'avez pas eues, vous pouvez faire des actions que vous avez tenté de faire, que vous avez ratées. Enfin, il y a plein d'éléments.
Rappelons que quand même, dans le deuxième scénario, on visite un musée et qu'il y a quand même toute une scène dans laquelle on ne fait que suivre un guide qui nous présente des objets d'art.
Oui.
C'est pas encore une fois à l'image de cette première scène, c'est-à-dire qu'on a un maître de jeu qui est conteur et qui raconte à ses joueurs ce à quoi assiste leur personnage, c'est quand même assez typique de beaucoup de choses que l'on va retrouver au long de cette campagne. Après, je ne juge pas. Est-ce que c'est plaisant ou est-ce que c'est pas plaisant ? Ça, c'est une autre question, parce qu'il y a des histoires auxquelles on peut aimer assister. Et moi, par exemple, avec cette campagne, ça a été un peu le cas. Il y a beaucoup de passages, et notamment ce passage au musée. Moi, j'ai beaucoup aimé le moment où on nous montre ces pièces d'œuvres d'art. Et j'expliquerai pourquoi peut-être après. Flavie ?
Bon, en fait, le fait d'avoir eu cette présentation, entre guillemets, au début du scénar, m'a plus ou moins indiqué comment ça allait se dérouler. C'est-à-dire qu'au début, on assiste à la victoire des rançonneurs. Et moi, comme je l'ai compris, du coup, je m'attendais à vivre une sorte d'intro comme ça. Et le moment où les gens décident de se rebeller et tout, je l'ai pris un peu comme le fait que à un moment, les PJ vont arriver et vont combattre les rançonneurs. Et du coup, moi, j'attends ce moment où nous, on va combattre les rançonneurs. Et du coup, je me doutais que ce soir, on ferait surtout une intro. Et que du coup, ensuite, ça allait être le réveil des gens qui vont combattre cette menace et avec plus ou moins de...
Du coup, toi, entre guillemets, t'en as eu pour ton argent. C'est-à-dire tu t'attendais à une introduction,
moi,
t'as eu une introduction.
D'autant que Adrien avait été assez clair sur le contrat social, à savoir qu'on allait faire un toboggan participationniste. Et j'ai participé, je m'attendais à regarder le truc, et puis moi j'attends le moment maintenant où on va se mettre les coudes sur la table et on va aller leur défoncer
donc,
la gueule.
On rappelle, hein, le participationniste, c'est le fait que dans un scénario de jeu de rôle, le meneur de jeu, en gros, sache précisément les événements qui vont se dérouler pendant la partie et que les joueurs sont juste amenés à...
Et surtout, les joueurs savent qu'il faut suivre le scénar, en fait.
Voilà, c'est ça.
Que y a, c'est pas de l'illusionnisme où le MJ fait comme si les, tous les choix des joueurs étaient vraiment libres et que ça, ça évoluait toujours dans le bon sens. Là, c'est les joueurs savent que ben, le MJ a prévu quelque chose et qu'il faut aller dans ce sens-là. C'est-à-dire voilà. que quelqu'un qui est mourant...
L'exemple qu'on dit souvent, c'est qu'il y a un vieux qui meurt dans une rue.
Il va vous donner une quête, ben, vous allez l'écouter parce que vous êtes là pour ça.
Voilà, c'est ça, exactement.
Et puis dans cette intro, du coup, j'ai trouvé qu'il y avait... On en parlait hier sur les pistolets de Tchekhov. C'est le moment où en fait, on nous pose les pistolets de Tchekhov qu'on va pouvoir utiliser ou pas pour résoudre l'histoire. Donc du coup, moi, j'ai été vraiment attentive à tous les petits détails et tous les petits indices qui pouvaient être laissés en étant finalement assez attentiste hein, et pour pouvoir plus tard faire quelque chose.
Ouais, mais
alors, moi, pour les auditeurs, j'ai l'impression qu'on est parti un peu dans tous les sens. Ça serait peut-être cool de remettre un petit peu plus
alors,
de
allez,
détails.
Alors, je raconte rapidement la fiction, si vous voulez. Donc, le théâtre d'ombre va se mettre à brûler. Alors que la représentation s'achève, on voit un homme qui se fait, qui se prend un coup et un autre, un bras ganté, qui va enflammer les rideaux du théâtre. Et le feu se déclenche. On se retrouve dans une situation de fuite, hein, de runaway, dans laquelle on va fuir avec, en sauvant au préalable cette personne qui s'est pris le coup de poing, qui est un Chinois qui s'appelle Ryu Ru, qui est, on va voir, qui est un personnage assez important dans la suite des autres scénars, qui va nous conduire à travers les méandres du théâtre jusqu'à une issue possible. Le problème, c'est qu'il s'est trompé de route et qu'il nous ouvre sur une autre porte qui mène à un escalier qui descend dans les ténèbres et dans lequel on découvre une femme entourée de cinq suppliciés, chacun subissant une torture assez immonde. Donc ces cinq personnages semblent former un pentacle autour de la jeune femme. Assez rapidement, on comprend que ces cinq personnages autour ne sont pas sauvables, c'est-à-dire qu'en fait, ils se sont sacrifiés, ils sont déjà morts ou en tout cas dans des situations dans lesquelles on ne peut pas vraiment les sauver. Par contre, la jeune femme, elle, est sauvable. Donc, comme on est dans une situation de fuite, on va décider, Flavie va décider d'essayer de la sauver elle aussi. Donc, elle la prend sous son aile et elle s'enfuit avec.
Et avec l'aide de Ryulu, parce que moi, j'ai raté mes jets pour la sauver. Donc, du coup, je me suis fait mal.
Et on découvre petit à petit que bon bah déjà on c'est très bizarre hein, cette scène on est confronté dès le départ en fait à du fantastique. Dès le premier scénar on est comme ça confronté à du fantastique.
Sachant que c'est pas tout à fait enfin c'est le premier scénar ensemble, mais qu'avant cette scène d'intro etc.
Ah oui c'est vrai.
Il y a eu des scénars solo et pour l'instant aucun de nous ne sait exactement ce qui s'est passé dans les scénars solo des autres et que donc chacun garde ses secrets bien enfoui.
On va dire que chaque scénar solo semble donner des indices différents, des angles de vue différents sur la quête qui va ensuite avoir lieu quand on va se réunir.
Ces scénars solo, l'idée c'est de vous donner,
Adrien.
Tel que c'est présenté dans les bouquins, c'est de vous donner des raisons de vous intéresser à cette histoire. Chose que ça fait assez mal. Par contre, ce que ça fait assez bien, c'est que ça vous montre des protagonistes importants ou des problématiques ou des sujets. Vous avez vu un Japonais qui a tué des Chinois qui sont venus qui sont tombés sur les bras. Flavie a été agressée dans une zone hyper obscure par une créature étrange.
Elle est étrange.
Alors, Romaric a croisé un étudiant chinois qui dérobait des germes.
Dérobait des germes dangereuses. Enfin,
et donc tous ces éléments-là. Ils reviendront. Voilà, c'est annonciateur de la suite.
Moi, je trouve ça intéressant, mais ça ne fait pas ce que ça veut faire. C'est-à-dire que si le but est d'impliquer les personnages des joueurs dans l'aventure, ces scènes ne le font pas. Par contre, je trouve que ça crée énormément de problématiques et d'intérêts dans la mesure où, comme on ne sait pas ce que les autres ont vécu, on se pose la question de savoir ce qu'ils ont vu. Qu'est-ce qu'eux ils ont vu, tu vois ce que je veux dire, et c'est ça qui nous fait nous poser des questions. Flavie par exemple semble avoir vécu quand même des événements qui sont assez paranormaux dès le départ.
Assez paranormaux. Ah, je me fais attaquer par une ombre qui me bouffe une partie de mon ombre. Maintenant, j'ai une trace de dent sur la jambe dans mon ombre.
Et ça c'est intéressant.
Et en plus, ça me charcle mon perso entre guillemets, je démarre avec 13 PV. Et quand la créature m'attaque, c'est pas comme si je perdais des PV pour quelque temps, c'est-à-dire que mon perso perd pour toujours un PV.
D'accord. Donc la réserve diminue de 1.
La réserve diminue de 1. Et là, tu te dis, OK, donc ce truc-là est dangereux, ça va faire flipper.
Ouais. Ça, c'est intéressant. Est-ce qu'après, une fois que ton personnage sera confronté avec des ombres, avec ce genre de problématiques, on verra qu'à un moment donné, justement, dans le statue, on trouve, dans le musée, pardon, on trouve une statue qui n'a pas son ombre, ou en tout cas dont l'ombre est déformée. Du coup, d'un coup, ça déclenche du jeu.
Parce que je perds beaucoup de santé mentale avant même que le jeu ne démarre. Du coup, bah, comme j'avais perdu beaucoup de santé mentale sur ce truc-là, bah, je m'étais dit, ça va être cool à jouer, quoi.
Voilà,
je vais flipper sur les ombres.
Ça crée du jeu, tu vois. Ça crée de la couleur. Les scènes créent des choses à jouer. Nous, on a pu comme ça faire une super scène avec celui qui s'avérera être le grand méchant d'histoire avec Natacha, parce qu'on avait vécu des scènes au préalable. Enfin bref. Donc ensuite, une fois que Ryuru nous a fait sortir du théâtre enflammé et qu'on a récupéré... comment s'appelle-t-elle déjà?
Liu Chen.
Mei Fang.
Mei Fang, c'est celle qui sert.
C'est la guide.
Comment vous dites?
Liu Chen.
Chen. Alors, elle, je n'avais pas noté, j'avais pas son nom en fait sur ma feuille. Donc c'est Liu Chen. Très bien. Au début, je croyais que ça allait être quelqu'un de pas du tout important, tu vois. C'est pour ça que j'ai pas noté son nom. Parce que je me suis dit, c'est juste une fille qu'on sauve au passage. Alors en fait, non, pas du tout.
Et pourtant, il y avait l'image.
J'avais
montré la photo d'elle et pas des cinq suppliciés, par exemple.
Alors ça, c'est très intéressant. Dès le premier scénar. Oui, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Oui, tu ne nous as pas montré les cinq suppliciés. Tu nous as montré sa photo à elle. Dès le premier scénar, tu utilises ces petites cartes de PNJ que tu mets devant toi. Et là, déjà, on sent un effet qui était inattendu. On avait déjà parlé de ce petit côté dans la présentation du podcast, du fait qu'à un moment donné, tu allais pouvoir nous dire « Vous rencontrez ce type » et tu nous montres la carte. Donc, ça économise des descriptions, mais que ça permet également de faire genre « Oh, mais je le reconnais, c'est un tel, etc. » Mais là, on a découvert autre chose avec Flavie et Natacha, c'est qu'en fait, ça nous permet de retenir beaucoup mieux les noms des personnages.
Ouais, parce que généralement, que ce soit occidental ou autre, hein, les persos dans un JDR,
les noms des personnages
dans un JDR, j'ai beaucoup de mal à les
retenir. Comme dans la vraie vie, en fait. Hein, quand t'arrives dans une soirée et qu'il y a 20 personnes que tu connais pas, retenir les noms des 20 personnes, c'est pas possible.
Alors moi je parle plus, c'est plus que ça, c'est-à-dire que dans un jeu de rôle normal, entre guillemets, dans un scénario de jeu de rôle traditionnel normal, quand on me donne des noms de personnages, je ne retiens pas leurs noms. C'est même pas... Il y en a peut-être que trois, mais je vais pas les retenir. Impossible de retenir les noms dans une campagne où il y a même du huis clos avec peu de gens. Et là, le fait de nous montrer les images et de nous dire « lui, c'est machin », je sais pas pourquoi, ça m'a donné un support visuel. Je me suis rendu compte que je retenais systématiquement les noms. En règle générale, dans la vie de tous les jours, moi, je sais très très bien retenir les noms. J'ai une mémoire des noms et des visages qui est bonne. Je pense que tous les gens qui ont été profs dans leur vie ou qui ont eu
j'ai un gros souci avec
moi
ça.
Aussi, ouais.
Genre, ok, bon, je ne pense
pas. Réussir à retenir le nom des gens, c'est un vrai problème.
Mais voilà, c'est là le fait d'avoir le visage, ça permettait d'accrocher des noms et même des noms qui sont des noms chinois qui sont extrêmement complexes dans les sonorités, dans les syllabes et compagnie, on a réussi, je trouve, à bien les retenir. Et ben ça, pour l'immersion, je veux dire chapeau, c'est génial.
Ouais, c'est une très très bonne idée.
Alors, moi, un truc que je vais dire là-dessus, c'est qui est quand même important, c'est que ça, c'est dans le livre de la campagne, ils en parlent pas, ils nous disent pas utiliser les cartes pour montrer les personnages. Ça fait juste partie du matos du jeu, parce que c'est la version ultra collector, je sais pas quoi. Donc tous ceux qui ont cette version-là vont les utiliser parce que le matos est là, que c'est pratique, etc. C'est dommage qu'il n'y ait pas un petit mot pour que les gens qui ne les aient pas puissent, on ne leur conseille pas, imprimez-les ou au moins imprimez les personnages principaux que vous jugez importants.
Parce que tu peux faire... Attends. C'est hyper important ce que tu es en train de dire là. La campagne qu'on a faite là, tu peux l'obtenir, tu peux l'acheter sans les cartes?
Oui, tu peux acheter que les livrets de campagne.
Ah non, mais c'est un scandale. Alors là, voilà. Là, on arrive dans ce que je déteste dans le crowdfunding. C'est-à-dire, là, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de juger au final ? La campagne des 5 supplices ou alors la version collector des 5 supplices et compagnie ? Parce que là, franchement, si t'as les photos ou si t'as pas les photos, ton ressenti sur la campagne sera complètement différent. Moi, par exemple, cette campagne sans les photos, pour moi, c'est une campagne de Cthulhu quelconque. Les photos rajoutent...
Ouais, mais je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que je dis ça. Hein.
Enfin, c'est
que
là, c'est pas
si
du
vous voulez
détail,
faire
quoi.
Jouer cette campagne et si vous voulez faire jouer une campagne avec le même type de personnage, je vous invite vraiment à trouver ces photos. Quoi, parce
honnêtement, pour
que...
trouver une analogie qui parle, c'est comme si tu me proposais de regarder un film sans
le
son. Quoi.
J'ai pas vérifié si sur le site de l'éditeur, les photos étaient trouvables en PDF pour pouvoir vous les imprimer chez vous? Je pense que oui. À mon avis, ça doit être le cas. Mmh. Faites-le si vous pouvez. Sinon, c'est vous passez à côté d'énormément de choses.
Après, pardon. J'ai connu des MJ qui, pour d'autres jeux, trouvaient des photos de séries ou de choses comme ça, et les appliquaient à leur PNJ et ça marche bien. Mais aussi.
Le truc, c'est que c'est pas la même chose quand c'est une technique de MJ et quand c'est un conseil de jeu.
Ça c'est juste pour dire que si jamais elles sont pas récupérables en plus sur le site, y a toujours cette technique-là.
Et puis moi, je trouvais que ça justifiait bien l'écran qui est assez large. Moi, quand j'ai vu l'écran au début, je me suis marrée en disant, ouais, l'écran de 1 mètre, ça... Mais en fait, non, il y a une vraie justification, c'est parce que tu accroches les photos, il y a des matériels pour accrocher les photos sur cet écran. Et du coup, le fait que l'écran soit grand, en fait, c'est un écran qui nous sert à nous aussi.
Ouais. Non, mais il y a un autre élément, c'est que moi, j'ai jamais vu une campagne ou des scénars dans lesquels il y a autant de PNJ. Il y avait combien de photos suspendues? De toute façon, c'est bien ça qu'il y avait 3 volets, il y avait 5 photos par volet, ça fait déjà 15. Et après, tu mettais des photos sur des photos.
Il y en avait
3
ou 4 autres qui étaient par terre,
enfin à côté devant. Alors, je veux dire, moi je veux bien, mais enfin sans les photos, si t'as pas les photos, pour retenir ces personnages-là, pour retenir ces noms, mais t'en retiens pas la moitié.
Ah, moi du coup, j'ai une question pour toi, Adrien. Ensuite, un truc que j'ai trouvé cool que t'as fait. La première photo, c'est par contre, est-ce que pour le meneur de jeu, c'est pas hyper compliqué de gérer les photos, ou alors est-ce qu'il faut pas prévoir de les classer avant?
Alors,
ou
dans la boîte, les photos, il y a indiqué sous le nom, enfin sur la carte, il y a indiqué du coup. Donc la carte, elle a deux côtés. D'un côté, il y a la photo, ce qu'on montre au joueur, et de l'autre côté, il y a des notes pour le MJ. Ça va être son nom, ses objectifs. Par exemple, Guang Mei, son objectif, c'est de stopper Saik Fong Li. Voilà, son objectif. Je sais pas exactement comment c'est formulé. Et ensuite, il va y avoir des traits de caractère. Par exemple, il est calme, sage et un peu bourru. Et puis en dessous, il va y avoir livre 2, livre 3 ou livre 4.
Ah,
et ça va être à partir de quel livre il apparaît. Donc déjà, j'ai pu trier en disant tous les personnages livre 2, c'est ceux qu'on va utiliser pendant ces trois scénarios-là. Ouais. Donc je sais que je les aurai sous la main. Alors après, il y en a quand même pas mal. Mais ça se fait. Là où ça va devenir problématique, je pense, c'est pour les parties suivantes. Quand certains personnages du livre 2 seront toujours là au livre 4.
Oui, mais nous, on sera là pour t'aider à ce moment-là,
parce
qu'on s'en souviendra.
Non, mais
il faudra que
je les trouve dans le paquet de cartes.
Les photos sont vraiment très réussies, c'est-à-dire que les personnages ont des gueules, ils sont habillés d'une manière spécifique.
Des attitudes différentes.
Ah ouais. J'ai trouvé notamment le grand méchant et son gardien sont super classe. Là, il y a un vrai travail. Moi, je suis fasciné.
Esthétiquement, c'est très, très beau.
Mais tu vois,
et ça te met dans l'ambiance. Il y a vraiment un truc qui te met dans le côté 1930. Enfin, moi, je trouvais que c'était un vrai plus
même
pour l'immersion.
Même au niveau des vêtements, complètement. Même au niveau des vêtements.
Oui, tout à fait.
Donc, dans le deuxième scénario, on est invité à participer à l'inauguration de la gare de l'Est. Et au cours de cette inauguration, donc on sait que de la gare de l'Est partira un train qui ira traversera la Sibérie, le fameux transsibérien, qui doit arriver en principe jusqu'à Vladivostok et la Mandchourie et compagnie.
Exactement.
C'est ça. Donc, on sait que, évidemment, cette ligne, elle est là pour faire une transition, ou en tout cas un échange, entre la Mandchourie et la France. Nous sommes des Français, on voit que tous les scénars solo, tout tourne autour de la Mandchourie,
de
Chinois
Japon,
qui s'affrontent au Japon. On sait aussi que 1931, c'est une date clé dans l'histoire de ces deux pays, puisque c'est l'histoire de l'invasion du Japon. Enfin, il va y avoir une guerre.
Ça n'a pas encore eu lieu.
Ça n'a pas encore eu lieu, mais voilà, on joue dans une époque qui est un peu intéressante de ce point de vue-là.
À l'époque, d'un point de vue historique, vous en avez entendu parler, vous n'avez pas trop creusé les aspects politiques, mais en Mandchourie, les lignes de train sont sous tutelle japonaise.
Oui, si, tu
mais
nous en
tout.
As parlé.
Ouais, j'en ai parlé, mais c'est tout.
Donc, en tout cas, il y a des enjeux politiques aussi intercontinentaux qui sont assez intéressants. Et au cours de ce deuxième scénar, c'est un peu ce qu'on apprend. C'est-à-dire qu'il y a des Américains, des Anglais, des entrepreneurs qui sont là pour essayer de récupérer des parts de marché et faire du négoce avec la Mandchourie. Et parmi eux, il y a l'Anglais, il me semble. Wilburn, c'est l'Anglais ou c'est l'Anglais?
Wilburn, c'est l'Anglais.
A décidé d'entreprendre des négociations avec Saik Fun Li, qui est donc le délégataire, enfin celui qui représente la Mandchourie en l'occurrence.
Le conseiller du seigneur de guerre Zhang Ziyang.
Exactement.
Pour se faire dans un scénario solo, il avait lâchement racketté mon personnage d'un objet qu'elle venait d'acheter aux ventes aux enchères.
Ouais.
Et donc qu'il avait récupéré pour
Wilburn. Wilburn avait fait ça. Il avait voulu te racketter. Parce qu'en fait,
Wilburn,
je pense qu'il a compris que Saik Fun Li. Son ambition n'était pas mercantile. Son but n'est pas, il n'a pas d'intérêt économique. Il a des intérêts spirituels. Et lui, ce qu'il recherche, ce sont des artefacts qui sont liés à cette fameuse légende du messager des tourments, dont on nous en parlait au Théâtre d'Ombre la veille. Et il a compris que pour séduire Sai Fong Li, et donc pour favoriser l'Angleterre dans les négociations avec la Mandchourie, il fallait lui offrir sur un plateau les artefacts sacrés qu'il recherche. Or, ces artefacts sacrés, pour le moment, ils appartiennent à un collectionneur français, enfin en tout cas qui est domicilié à Paris, qui s'appelle Monsieur Lonsdale. Et nous, en tant que joueurs, on est juste visiteurs de l'exposition de Lonsdale et de l'ouverture de l'inauguration de la gare de l'Est.
D'ailleurs, cette scène, en fait, c'est ça qui est le plus important. Enfin, la création des personnages doit forcément vous permettre d'être présent sur place.
C'est la scène d'intro. Enfin,
c'est le
nœud.
C'est le nœud point. Gordien. En fait, il faut absolument que les personnages des joueurs puissent être invités là. Donc, en gros, c'est pour ça que dans les conseils sur quels sont les personnages qui seront appropriés, c'est des gens qui sont intéressés par la culture chinoise, des gens qui sont bourgeois ou riches ou très riches. Parce que il faut, pour être invité là, il faut pouvoir dire, soit je suis journaliste, soit j'ai des actions dans ces entreprises-là. Donc, dès qu'on a un peu de capital, voilà. Ou alors être quelqu'un du milieu culturel. Et du coup, on a des raisons d'être invité là. C'est le point central, on va dire.
C'est là que, pour moi, le bas blesse. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu veux être à une exposition.
C'est
pas parce que tu peux être à une inauguration de la gare de l'Est et à une exposition d'art chinois que par ailleurs tu vas accepter de travailler pour les sociétés secrètes chinoises, les services secrets français. C'est-à-dire qu'on est contacté par les services, par le ministère.
C'est les limites du participationnisme. C'est les limites du participationnisme. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où tu es un PJ. T'es pas seulement monsieur l'avocat que t'avais défini, mais t'es aussi un aventurier. Et c'est-à-dire, tu vas sauter sur le moindre truc qu'on va te demander, on va te donner une quête et tu vas accepter la moindre quête. Voilà. Bon. C'est les défauts du participationnisme, c'est que d'un point de vue cohérence et logique, il faut forger pour forcer la cohérence.
Moi, mon problème avec ça, c'est que si tu ne donnes pas de motivation au personnage, sans parler de rentrer dans du grand simulationnisme, sans parler de grande cohérence, moi, je m'en fous. Dans un scénar de Cthulhu, j'accepte, parce que ça fait partie du contrat, d'être un investigateur du mythe, de descendre à la cave, bien même si c'est dangereux. Ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est qu'à partir du moment où on n'a pas vraiment d'accroche avec les protagonistes principaux de l'histoire, eh bien, c'est plus du participationnisme, c'est de l'assistationnisme. C'est-à-dire qu'on n'est même plus en train de participer. On ne participe même plus, on assiste d'une part, et d'autre part, on a à part j'avance, à part je clique ici, à part je vais voir cette personne ou je vais voir celle-ci, on n'a pas trop de
ouais. C'est intéressant ce que tu dis sur cliquer, parce que c'est quelque chose que tu as beaucoup cité hier.
Oui, oui, moi j'avais eu la sensation de jouer à un point and click. Donc en gros, j'ai passé ma soirée à faire des actions du type, bien sûr je ne le disais pas comme ça, mais utiliser torche sur ombre ou utiliser Taitran sur sbire. Taitran, c'est un mot qu'on a entendu et qu'on a essayé de donner à tous les PNJ qui étaient susceptibles de pouvoir répondre à ça, jusqu'à ce que ça marche. Oh tiens, lui il connaît.
Parce que dans notre scénar solo avec Natacha, on rencontre donc un ressortissant chinois qui a l'air d'être extrêmement blessé et qui va mourir dans nos bras. En fait, on est au mauvais endroit, au mauvais moment, encore une fois. Il meurt dans nos bras et avant de mourir, il prononce ce mot, il nous dit « Taitran ». Après, il y a un japonais qui nous agresse et qui nous demande « Il vous a dit quoi ?» Nous, bêtement, on lui dit « Taitran ». On lui répond un peu bêtement, on ne sait pas trop les enjeux de cette question. Et d'autant plus que ce japonais vient de nous sauver la vie.
Oui.
Parce que ce ressortissant chinois était poursuivi lui-même par des agresseurs qui avaient l'air d'être plutôt remontés. Ce qui sous-entendrait qu'il y ait 3 puissances dans notre scénario. Il ne faut pas l'oublier.
Oui. C'est très important, notez-le ça. Ouais, je ne crois pas que vous en ayez pensé hier.
Si. Moi, je ne cesse d'avoir ça en tête. C'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment donné, je voulais je voulais aider Sai Fong Li. Parce que pour moi, ce n'était pas forcément le méchant. On nous le présente, depuis le départ, on nous le présente comme le grand méchant, mais j'en suis pas certain, en fait.
D'accord.
Mais on aura l'occasion peut-être d'en rediscuter plus tard. Bref, tout ça pour dire que du coup, Taitran, c'était un peu notre seul mot d'attache. Tu vois, avec les... Donc du coup, on a essayé...
Que je croisais un PNJ, Taitran.
Taitran, non, oui, ça marche.
Taitran, non.
Alors une fois, on a failli se faire boxer, une fois, on a failli se faire trancher.
Oui, mais du coup, là, ça a déclenché une réaction.
Ah oui, ça a déclenché des réactions, oui.
Si ça se trouve, Taitran, ça veut dire fils de pute. Donc à chaque fois... À chaque
ta grand-mère est un gros hippopotame.
Tu te retournes vers Sai Fong Li, tu dis... fils de pute. Fils de pute, non.
Non, parce que...
C'est ça. T'imagines, non mais tu as pensé à ça, Natacha?
Tu sais que j'y ai pensé pendant le scénar parce que j'avais tout un trip sur
mais non,
le
mais parce que. Oui, il faudra qu'on parle du mandarin.
Mm-hmm. Oui, oui.
Non, mais parce que. Non, parce que c'est pas, moi, pour moi, c'est pas le cas parce que du coup, il y a d'autres PNJ à qui on l'a dit qui étaient susceptibles de connaître ce terme si ça avait été un terme de mandarin.
Oui, et ils nous ont dit qu'ils ne connaissaient pas.
Ils nous ont dit qu'ils ne connaissaient pas, que c'était probablement un nom. De
voilà, c'est le cas par exemple de Mei Fang qui est donc la conservatrice de la collection de Louis Lonsdale. Une jeune chinoise très jolie qui nous présente au départ, qui nous fait la visite en fait de la.
Alors ce qui est très rigolo, c'est que quand tu dis très jolie, j'adore. Moi je l'ai pas décrite physiquement. J'ai juste montré l'image et ça c'est vous.
Mais moi je suis amoureux. Moi je suis déjà amoureux. Ouais. Mon personnage est amoureux de ce personnage. D'ailleurs je l'ai réconforté et tout ça. C'est assez marrant. Effectivement, cet aspect point and click qui nous fait penser un peu à Parsley Game, tu sais, le jeu de la boîte
à
eux.
C'est aussi à Parsley que je pensais. Ouais,
c'est vraiment ça. Moi, j'ai vraiment eu cette sensation-là aussi. Hein. Je partage complètement cette impression de Natacha. Et puis, le troisième scénario, est-ce que quelqu'un veut le raconter? Parce que je parle beaucoup dans ce podcast. Non, personne ne veut.
Bah, je peux prendre le relais. Hein. Je prends le relais. Flavie, elle est en train de prendre des notes méthodiquement.
Que se passe-t-il dans cette troisième.
Il faut que je m'en souvienne. En fait.
Ah, moi, je veux bien, finalement, j'ai fini de prendre ma petite note.
Moi, j'ai adoré. C'est ma.
Dans le troisième scénar, je ne sais plus exactement quand il commence, par contre.
Bah, il commence quand vous quittez
l'exposition.
Quand on quitte l'exposition, on va aller à l'hôpital. Là, les séides, donc les sbires de Saipongli.
On va à l'hôpital, oui, pour préciser.
Pour récupérer la jeune fille qu'on a sauvée au début, parce qu'a priori, elle a l'air d'être mêlée à tout ça, et a priori, Saipongli la recherche.
Voilà, c'est ça. On sait qu'on a appris dans l'exposition qu'il la recherchait, ouais. Effectivement.
Et aussi, on a eu des petits papiers qui nous indiquent ça, mais ça, ah
oui,
on va
en parler après.
Ouais. Ouais, ça, je vais en parler.
Et
ça,
quand on arrive, du coup, les sbires sont là et en fait, notre contact au ministère français, en gros, nous aide pas et laisse la jeune fille être prise par les séides.
Parce que contrainte diplomatique.
Exactement.
Il peut pas empêcher le Manchou de réaliser ses ambitions parce que s'il le fait.
Économiquement, les Manchous sont là pour passer des gros contrats. Ouais. Et lui, on lui a dit tu t'enquêtes sur eux parce que c'est quand même bizarre. Mais.
En gros, tu te renseignes, mais tu ne les empêches jamais d'agir.
Ouais. Et surtout, en fait, il n'y a pas de raison légale. C'est que cette chinoise. Elle a même pas été violentée par eux, c'est-à-dire qu'ils l'ont juste, embarquée, elle a suivi.
Elle suit, elle s'habille, elle a l'air éteinte, quoi.
Elle a l'air un peu éteinte. Elle est ressortissante chinoise, elle a pas de papier, donc ça arrange bien le gouvernement qu'elle reparte avec des Chinois, quoi. Enfin, c'est.
Oui, c'est clair. Il y a pas de raison légale. D'ailleurs, je te demande à ce moment-là de faire des jets de droit et compagnie pour essayer de trouver des raisons légales d'empêcher ça, mais je peux pas.
C'est là où du coup démarre, je pense, la fin de l'intro, où du coup il fallait bien mettre un terme à ça pour nous obliger en tant que PJ à pouvoir aller vers l'Asie. Et du coup, à partir de là, on va aller chez Guang Ying, qui est en train de se faire attaquer par des ombres.
Qui est le rival de Saipongli, en fait.
Ouais.
Le rival magicien. Ouais.
C'est celui qui avait demandé à ces cinq jeunes hommes, ces cinq suppliciés autour d'elle, de créer ce pentacle pour la protéger de Saipongli. Parce qu'on sait que si Saipongli met la main sur cette jeune femme, il aura alors le moyen d'obtenir des pouvoirs grâce à un tatoueur asiatique.
Voilà, en gros, l'idée, c'est que cette jeune fille est la petite fille d'un maître tatoueur. Et que si Saipongli peut mettre la main sur la jeune fille, il peut faire pression sur le maître tatoueur pour se faire tatouer le tatouage qui lui permettrait de devenir rançonneur de droit divin.
Voilà, mais donc de devenir maître du monde.
Et du coup, quand on arrive, on sauve en gros Guang Ying. Qui lui, là, nous révèle du coup les trucs, comme quoi il essaye d'empêcher l'autre de devenir rançonneur de droit divin, etc. Et comme on a perdu la fille, il faut trouver un autre moyen, donc on décide d'aller chez Lonsdale. On arrive chez Lonsdale, mais à ce moment-là, il y a Saipongli et ses sbires qui arrivent. Chez Lonsdale, il y a aussi Mei Fang,
donc la conservatrice
de la collection de Lonsdale. Ouais.
Et à ce moment-là, c'est le moment badass du méchant. Salut! T'essayes de me tirer une balle, mais ça marche pas parce que moi j'ai un super pouvoir qui fait que même si t'as essayé de faire une action, tu l'as dans le cul. Et du coup, dès qu'on essaye de faire quelque chose, en fait, là, c'est le moment où on perd pour pouvoir lancer le reste de la campagne. Donc du coup, Saipongli, il arrive, il chope Lonsdale, il chope aussi ton perso à toi, Natacha.
Il fait un tatouage.
Il te fait un tatouage magique qui
sur le bras, qui ressemble pour la suite. Un dragon et qui grosso modo laisse présager que si jamais un jour il me dit « Hey, si tu tuais les deux autres PJ !» je serais obligée de le faire.
Tu tueras les deux autres PJ. On est très rassurés. Et pendant que du coup ça arrive, Rome il reste avec Mei Fang. Et il met la main sur le journal intime de Lonsdale.
C'est Lonsdale, hein, pas Longsdale.
Longsdale.
Non, c'est Lonsdale.
Long day.
Oh, piano.
Et là, du coup, on a ensuite la team. Enfin, une fois que t'as ton tatouage, Natacha, Siphon Lee rejette ton personnage de la voiture. Nous, on te retrouve, on réunit la team, on lit le journal intime, et là on apprend que Longsdale, il a un énorme tatouage de portail
sur le torse,
on apprend qu'il s'est passé des trucs moches, genre quand il y a une ombre qui passe par son portail, ça le rend très malade. Ça met aussi pas mal de...
En gros, on apprend que Lonsdale est une sorte de portail vers le monde des ombres.
Ouais, c'était lui l'artefact qui était recherché.
Il a été manipulé plus ou moins parce qu'il avait en sa possession un bouquin très ancien, très précieux, que plein de gens cherchent.
Ouais. Dans lequel il y a marqué « La, Cthulhu Fatagan ».
Oui, qui, comme par hasard, le mène à Bagdad. Bon, en gros, il a trouvé le Necronomicon, tout ça.
Je ne dirai rien pour l'instant.
Mais ça ressemble fortement, nous y avons tous... penser très très fort.
On sent dans cette campagne un énorme côté, comment on appelle ça ? Référence. Un côté fan service, tu sais. Il y a des phrases, des anecdotes qui font tellement penser à l'histoire du jeu de rôle Cthulhu ou de Lovecraft. Hein,
il y a beaucoup de clins d'œil qui m'ont beaucoup fait rire.
Des easter eggs.
Notamment, quand vous visitez l'exposition à la Gare de l'Est, il y a une des œuvres qui s'appelle Les Seigneurs des Trois Mondes.
Voilà.
Et le sous-titre, c'est ces trois seigneurs dirigent respectivement sur les contrées des rêves, l'Empire des Ombres et le monde des hommes. Voilà. Et là, en fait, le truc, c'est qu'à ce stade-là, pour vous, joueurs qui connaissez un peu le mythe de Cthulhu, ça va partir dans la contrée des rêves.
Voilà, c'est ça.
Et en fait, plus tard, vous apprenez que ça tourne tellement autour des ombres qu'au final, ça va sans doute être une...
On l'a compris dès le départ, mais par contre, on s'est dit que peut-être à un moment donné, on devrait passer par le monde du rêve.
Peut-être.
Ouais. Moi, je me suis dit...
Moi, j'espère encore. Hein. J'aime bien. On va passer par le monde du rêve. Il se passe toujours des trucs chelous.
Mais il y a un fan service, tu vois. Il y a un vrai amour de l'univers de Cthulhu, des campagnes précédentes aussi.
Et puis,
il y a des clins d'œil.
Il y a quand même un indice dans la sacoche que tu nous as montré. Il y a quand même un jeu de plateau où c'est
Nyarlathotep versus...
Je ne sais plus quel dieu c'est. Je crois que c'est Shumigurat versus Azathoth, un truc comme ça.
Dans mes souvenirs, je ne sais plus, mais je me demande s'il ne va pas y avoir un truc, un dieu à aller chercher dans le monde à contrée du rêve pour pouvoir combattre les ombres.
Honnêtement, là, c'est des
là, c'est des grosses spéculations. Moi, ce que j'ai envie de rajouter à ce que vous dites sur tous les clins d'œil qui rajoutent, etc., il y a un gros travail historique aussi. Il y a beaucoup d'éléments d'aide de jeu sur comment, par exemple, quelles étaient les communautés chinoises à Paris en 1930. Il y a d'autres choses sur les relations interpersonnelles en Chine, c'est-à-dire comment on se comporte en société en Chine. Ça vous les aurez plus tard, etc. Et il y a aussi un énorme aspect historique, c'est-à-dire qu'en fait, la situation géopolitique que vous allez croiser, elle est très documentée.
Ouais, ça se voit.
Et ça se voit, ça se ressent.
Ça se voit.
Et ça se sent aussi. Enfin, le personnage de Siphon Lee, qui est le grand méchant, en fait, il est aussi caricatural en soi. C'est-à-dire qu'en fait, sa photo, ça prend la représentation un peu parodique du péril jeune qui était utilisé à l'époque assez fréquemment.
D'accord.
Cette vision du chinois un peu maigre avec les cheveux longs en tresse, etc. C'est enfin. Cette image raciste-là, en fait, elle est réutilisée, le combat des cultures
et compagnie, et tous ces travers.
Qui est d'ailleurs, du coup, comme c'est très très documenté, on est amené, vu qu'on joue... nous, on est né dans le 21e siècle, mais on est amené, du coup, à jouer des sortes d'archétypes stéréotypés
d'une époque colonialiste.
Ouais. Et du coup, on finit, quand on joue, pour pouvoir le jouer, par faire des remarques... comme si on était de cette époque-là et où à chaque fois on finissait, on était mort de rire parce qu'on savait qu'il y a un second degré qui s'installe.
Ouais, c'est génial. Dans la description que fait Natacha de son personnage, parce qu'en fait, pour son personnage, Natacha nous a envoyé un mail. Ce qui est génial, c'est que sans être raciste, il y a des préjugés latents dans certaines de ses phrases. T'as caché des sous-entendus qui laisse imaginer, je sais plus comment tu dis, mais ils sont durs en affaires, ces Chinois, machin, truc, comme si il s'agissait d'un groupe homogène, compagnie.
Et du coup, ça permet de jouer avec des stéréotypes. On joue avec l'histoire. Les Occidentaux, ils ont fait des trucs sales à cette époque-là, et ça permet aussi de le rappeler, quoi. Et du coup, quand on le rappelle, ça permet de prendre du recul aussi, même sur sur la situation qui est vécue, sur le scénario, de replacer ça aussi aujourd'hui, mais avec ça, cette position historique que je trouve très intéressante.
Ça, c'est un autre problème justement de la campagne, c'est qu'on se place d'entrée de jeu comme favorable à une minorité. C'est-à-dire qu'en tant qu'occidental, les joueurs, les personnages des joueurs vont être amenés à aider des ressortissants chinois sur le sol français. Et moi, je me demande jusqu'où cette campagne n'est pas faite pour être jouée par des binationaux.
Par des personnages
ouais,
binationaux.
Ouais. Moi, j'aurais kiffé, tu vois, en fait, qu'on joue, tu nous contraignes, tu nous dises, bah, par contre, vous êtes tous asiatiques anglais ou asiatiques français, ou etc. Vous êtes binationaux. Pourquoi ça aurait été intéressant ? Parce qu'on aurait aussi eu la langue naturelle. On aurait su naturellement parler chinois. Et ouais, ça, alors... ça a été, au cours de la partie, ouais. Ça a été un vrai problème.
Alors, c'est un problème, mais ça ne le sera jamais vraiment. Déjà, je vous ai invité à créer des personnes en lien avec la Chine. Donc déjà, on a deux personnages autour de la table qui parlent le mandarin.
Avec plus ou moins de bons résultats.
Alors, je tiens à plaider, mais à culpa là-dessus, c'est que les deux personnages qui ont mandarin dans leur compétence, il y a des fois où je leur ai demandé de faire les tests... J'aurais donc demandé de faire les tests, ou en fait, c'est même elles qui m'ont dit « Ah, je fais un test de mandarin pour voir si j'arrive à lui dire ça. » Alors qu'en fait, il y a des situations où t'as la compétence à 50, oui, t'es capable d'avoir une conversation, c'est pas un problème.
Oui, t'es capable de lui dire bonjour et pas seulement « Ta grand-mère est un gros hippopotame. »
Ouais, j'avoue, en fait, j'avais lu, dans un temps fort, fort lointain, j'avais lu un bouquin où alors, j'ai réappris du coup qui c'était.
Terry Pratchett, ouais. Les tribulations d'un mage en Orient.
Exactement, où du coup, quand la personne essayait de s'exprimer, en fait, elle s'exprimait pas du tout dans la langue et du coup, elle racontait n'importe quoi. Et à chaque fois que je ratais mes jets de mandarin, et soyons honnêtes, j'en ai pas réussi un seul. Du coup, je racontais n'importe quoi, ce qui fait que ça m'a amené à faire des scènes, mais à mourir de rire, où du coup, je réussis mon jet d'intimidation avec le flingue, mais je rate mon jet de mandarin. Du coup, j'intimide les mecs en leur disant « Vos chaussettes sont trouées !»
Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'au lieu de dire « les mains en l'air », tu te trompes et tu dis « les chaussettes sont trouées !»
Mais j'ai réussi mon jet d'intimidation et j'ai eu des fous rires, mais des fous rires.
Ça donne des scènes assez cocasses. Mais justement, tu vois, je trouve qu'il faudrait poser, c'est ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il faudrait poser des contraintes plus fortes sur la création des personnages au départ. C'est
une... Oui et non, parce que, enfin, ouais, oui. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. En fait, il faudrait parce effectivement que la campagne lie vraiment les personnages à la problématique.
C'est-à-dire que ça y est. Là, au bout de trois scénars, on est lié à la problématique.
Ouais.
Natacha, son personnage, il a un tatouage maléfique dont il va falloir qu'elle se débarrasse, sinon elle est en danger. Moi, je suis amoureux de Mei Fang et je dois aussi protéger les intérêts commerciaux du père de Natacha. Donc j'ai deux liens, en fait, à la campagne. Tu vois, on peut imaginer ça.
Mais c'est de là...
Févi, c'est quoi ton lien avec cette campagne ?
Elle s'est fait bouffer une partie de son
nombre.
Je me suis fait bouffer une partie de mon nombre.
Et dans mon personnage, je suis fantasque et j'aime bien les aventures.
Voilà, t'as envie de vivre une aventure.
Exactement, ouais. les aventures ésotériques.
La même motivation qu'un éphilim, quoi.
Ouais, ou
les aventures de Madame Cali.
Exactement. mais soyons clairs, hein, moi j'adore faire ce genre de personnage. C'est quasiment toujours le même personnage que je fais quand je joue du tradi.
Ouais.
Et je trouve que mon personnage joué comme ça me permet toujours d'avoir une accroche dans les...
Il y a une synesthésie entre ton personnage et toi en tant que joueuse.
Exactement, en fait. Ouais. Et du coup ça me permet d'éviter des petits problèmes de réflexion sur pourquoi mon perso il est là. Elle s'en fout, elle veut vivre une aventure, elle y va.
Tous les problèmes que t'as eu Romaric à dire, mais pourquoi un avocat qui est là pour gérer des problèmes coloniaux, etc.
Mais ça m'a aussi beaucoup fait rire. En fait, ce qu'il faut dire, c'est ça, c'est que... Le décalage, en fait, de l'implication des personnages et de ce qu'on faisait dans la fiction m'a aussi beaucoup fait marrer. C'est-à-dire que moi, je passe mon temps à Cthulhu à m'amuser, à me marrer, à rigoler. Mais je ne rigole pas avec le jeu, je rigole du jeu, en fait. Parce que c'est ridicule, un avocat qui se retrouve mêlé à des histoires de suppliciés chinois dans une obscure rue de Paris. Enfin, il y a un côté complètement décalé des personnages qui n'ont rien à foutre là. C'est comme, imaginez un éléphant dans un magasin de porcelaine, un avocat perdu en plein milieu d'histoires spirituelles manchoues. Je veux dire, vous savez, dans Indiana Jones, ce moment où Marcus est au milieu des rues de...
Est-ce que quelqu'un parle français ?
Voilà, c'est exactement ça, un personnage de Cthulhu.
C'est un peu comme un moldu au milieu d'un film avec des magiciens partout.
Non, parce que ce moldu dont tu parles, donc là, en l'occurrence, tu fais référence au film des animaux fantastiques, il représente le spectateur. Il est une porte d'entrée pour le spectateur, parce que le spectateur est un moldu.
C'est pareil pour ton avocat ?
Pas du tout.
Et la question est posée à plus à la fin du film. Mais pourquoi vous êtes resté avec moi ? Mais parce qu'on t'aime bien.
Ouais, donc en plus, ils se moquent eux-mêmes de leur choix. Mais non, on pourra en parler plus tard de ce moldu qui est très intéressant. Il y a des liens, mais non. Parce que théoriquement, un avocat, c'est censé avoir des moyens. pour résoudre des affaires. Je pourrais faire appel à des secrétaires, je pourrais faire appel à des contacts, des services de renseignement et tout ça. Et en fait, tout ce qui manque, c'est de la motivation. Une fois que tu as la motivation, tu peux tirer sur le fil.
Il y a aussi quelque chose, tu as une aversion au risque dans quand tu joues.
Oui, et j'ai noté que ce jeu me rendait mauvais joueur aussi.
Et le fait est que du coup, tu n'oses pas essayer un jet de compétences quand tu penses que tu vas avoir plus de probabilité de le rater. Ouais, et à un moment, je sais que moi, je fais mon jet d'intimidation alors que j'ai rien en intimidation et que du coup, sur la fiche, j'ai 15% d'intimidation et Rome me dit, mais tu vas le rater. Et je fais, mais on s'en fout, si je le rate, j'essaye. Et là, je réussis, je fais 0,6 et je me mets à crier.
Mais tu vois, en fait, le truc, c'est que ça rend à chaque fois, ça rend ton personnage ridicule. Si on était cohérent dans la fiction, ton personnage serait ridiculisé. Mais sitôt qu'on rate, j'ai noté un mécanisme à Cthulhu qui est que sitôt qu'on rate une action, c'est le joueur qui fait de l'humour. Comme pour faire oublier que dans la fiction, il était ridicule. Et je ne sais pas si je suis clair. C'est-à-dire qu'on fait de l'humour en tant que joueur, comme si ça n'a pas eu lieu. C'est en tant que joueur, moi, qui vous fais marrer, mais dans la fiction, ça n'a pas eu lieu. Ben non, dans la fiction, ça a eu lieu. Ton personnage, il s'est ridiculisé. Et moi, mon problème par rapport à ça, c'est
que... Un échec, c'est pas forcément ridiculisant.
Non, pas forcément. Enfin... Non, je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est tout à fait. Mais c'est un exemple, par exemple, comme le mandarin où elle est avec son flingue. C'est-à-dire que, OK, quand tu prends du recul, tu trouves ça très drôle que quelqu'un pointe un chinois en lui disant « Hippopotame rose » pour le menacer et lui dire main en l'air. Mais en fait, enfin, on regarde quoi comme type de film là ? Un film d'horreur ? Un film horrifique ? Un film fantastique ? Ouais, ou alors un film burlesque, énergie 12 ?
Mais le truc étant que moi, j'aime bien toujours jouer. Ça a toujours été un truc que j'aimais faire quand je jouais du vrai traditionnel. J'adore jouer avec les limites méta.
Oui.
Et il y a même un moment où dans le scénar, je sais plus, tu demandes est-ce que je peux faire enlever mon tatouage et je dis oui, mais il faudra attendre 1990 pour que cette technique soit inventée.
Mais voilà, oui, c'est
et
ça, ouais.
Moi, j'ai toujours bien aimé jouer avec ces trucs-là, comme quand je rate, parce que moi j'ai raté un nombre de jets, mais j'adore du coup me lancer dedans parce qu'à chaque fois, je sais que je vais rater mon jet de dés, je vais me marrer.
Tu aimes rater.
J'aime rater.
Voilà. Moi
je dois avouer que j'aime pas rater non plus. J'étais vraiment très énervée sur certains jets hier. Mais parce que successivement, donc je fais un échec critique en discrétion. Ah, bah c'est cool, à la fin de la séquence, je vais pouvoir augmenter ma discrétion. Et bah non, quand j'essaie d'augmenter ma discrétion, je fais 0,02. Putain, mais vous pouviez pas être inversé, quoi. Juste inverser les résultats, c'est pas possible.
Ouais.
Et donc, bref. Donc voilà. Mais.
T'es une bonne joueuse, Fly. T'es une bonne patte. T'acceptes de rater. Moi, je déteste ça.
Et moi, je ne pose pas la question avant de lancer le dé, quoi. C'est juste, je trouve un truc intelligent, enfin, je trouve un truc intéressant à faire, du genre aller allumer les lumières de la gare. Et je vais allumer les lumières de la gare et donc je vais essayer de trouver une armoire électrique parce que j'ai trouvé ça rigolo de jouer avec le décor autour de moi.
Au final, tu vas pas être récompensé pour ça parce qu'à un moment donné, tu vas devoir faire un jet d'électricité. Tu vas finir par mourir parce que t'as eu une bonne idée. C'est chiant, quoi.
Mais ça, c'est ce qui est marrant, c'est que cette tendance de bon joueur, mauvais joueur que tu signales. On la retrouve en fait juste en regardant vos feuilles de perso.
Ouais.
C'est-à-dire qu'en fait, le perso de Romaric, ses scores sont à 80 minimum.
C'est vrai.
Parce qu'il veut que quand il tente quelque chose, il réussisse.
Exactement.
Et tandis que Flavie, elle aura des scores à 40 parce que comme ça, de temps en temps, je pourrais essayer.
J'ai plein de scores à 20 aussi, notamment mon mandarin. Je savais quand j'ai mis 20 à mon mandarin, je savais quel genre de scène ça allait amener. Ça me faisait marrer d'avance.
Romaric, tu veux que je te rappelle une partie sur laquelle tu n'avais pas du tout cette frustration de rater tes tests ?
Ouais.
C'est une partie où tu jouais un commercial. Un peu superficiel et con, qui avait aucun score au-dessus de 40.
Oh, c'était trop bien.
C'était la personne détestable, incompétente, qui avait plein de trucs à 40.
C'est vrai.
Et du coup, à jouer, c'était un plaisir parce que tu savais que de toute façon, quand t'allais tester un truc, c'était tellement probable que tu rates. Du coup, t'avais pas la pression de réussir.
Ouais, c'était génial. Alors,
et je pense que c'est ça qu'il faut jouer à Cthulhu en fait.
Ouais, alors oui et non.
Enfin, en tout cas avec le système tel qu'il est, avec
en fait,
le tel
ça
que
dépend
le jeu
dans quel. Alors en fait le truc c'est que ça dépend dans quelle optique tu es. Là en l'occurrence le personnage que tu signales c'était un personnage de one shot. Dans le one shot on est plus dans l'archétype de la pièce de théâtre où il y a des personnages drôles, il y a des personnages caricaturaux etc. Mais on sait que ça ne va pas avoir d'impact. Là on est dans une campagne. Pour moi la campagne c'est du sérieux.
Et moi, quand j'ai vu en fait le perso de Natacha, moi je me suis clairement dit ton perso ça va être l'héroïne parce que je le trouvais cool. Du coup moi j'ai construit un sidekick en fait. Et moi j'ai construit quelqu'un pour être fun. Donc moi je savais que le toc en fait personne l'avait. Du coup j'ai monté mon toc à fond parce que personne l'avait autour de la table. Et du coup, voilà quoi.
C'est excellent parce que c'est exactement dans le même optique. C'est-à-dire que moi, quand j'ai créé mon avocat, je me suis dit, je serai le soutien de... Mais aussi parce que Natacha a été... Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Natacha a été la première à faire son perso, qu'elle avait écrit un descriptif de son personnage et qu'elle nous avait donné une photo. Et Flavie et moi, on a fait notre personnage ensemble. Autour, on l'a construit finalement autour du personnage de Natacha qui avait été la première à...
Je sens qu'on va découvrir des trucs moches parce que vu la gueule que tu fais, on va découvrir des trucs affreux.
Et... pas du tout pensé comme ça, ouais, parce que comme pour moi, on jouait tous des notables, on était, enfin voilà, bah, bref.
Tous indépendants quelque part, les uns des autres. Mais voilà, c'est rigolo.
Moi, j'ai construit un perso pour m'amuser en fait, pour être là tout drôle du film, comme le Moldu dans les créatures imaginaires, quoi. Moi, j'ai construit mon perso comme ça pour me marrer et pour.
Oui, c'est vrai. En plus, c'est un personnage excentrique, etc. Alors que moi, c'était quand même un personnage un peu plus sérieux. J'avais quand même l'intention de faire quelque chose d'un peu plus sérieux. Mais bon, passons. Une chose est sûre avec moi, c'est que passé un certain temps de jeu, je deviens mauvais joueur. En fait, si je suis fatigué, je deviens mauvais joueur. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que même à Magic, si tu me fais jouer à Magic pendant des heures et des heures, au bout d'un certain moment, ou au Val, au bout d'un certain moment, je m'épuise. Et là, à partir du moment où je suis fatigué, je deviens mauvais joueur. Résultat, à la fin du troisième scénar, il y a un moment donné où j'en avais marre de tout rater, j'en avais marre d'être inutile. Je me suis levé, j'ai fait le mauvais joueur, etc.
Et
là, ça a mis quand même carrément un coup d'arrêt.
T'étais pas plus utile que moi.
Enfin, c'est juste pour dire que ça a mis un coup d'arrêt. Je suis désolé parce que j'ai nuit au Maelstrom pour le coup. Parce que là, à ce moment-là, vous êtes dit putain, mais en fait, Rome, il se fait chier depuis le début parce que j'ai dû dire.
Je me suis demandé est-ce qu'on leur propose pas d'arrêter en fait et d'arrêter les frais parce que si ça plaît pas du tout à Romaric.
Ah non, alors pas du tout justement.
Je t'ai même proposé de genre, ok, t'es frustré parce que tes compétences servent pas du tout, est-ce que tu veux en changer un petit peu?
C'est parce que je suis excessif. C'est-à-dire que là, je suis mauvais joueur et en plus, je suis excessif. C'est-à-dire qu'en plus, je vais dire de toute façon, c'est de la merde depuis le début ce truc-là, alors qu'en fait, ça fait juste 5 minutes que je m'ennuie. Ça c'est tout moi. Les auditeurs,
on a eu une grosse discussion. On a eu une grosse discussion après Rome et moi où je lui ai dit mais de toute façon avec toi c'est toujours tout noir ou tout blanc, t'es pas capable de parler modérément.
Et avant de m'endormir, j'ai dit de toute façon je vais arrêter le jeu de rôle, je suis trop mauvais.
T'as dit je vais arrêter le jeu de rôle et Magic, de toute façon je suis mauvais joueur, j'arrête le jeu.
Et maintenant tu perds au jeu
excessif.
Quoi.
Putain, j'ai perdu au jeu.
Et là, il a entendu mon rire un petit peu sardonique dans la chambre.
Ouais. Honnêtement, quand je suis fatigué, je dis que j'ai vraiment que de la merde. Enfin, il faut
pas. Et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit ah.
Et maintenant, chers auditeurs, vous comprenez enfin tous les podcasts des saisons précédentes.
Je dis, on a tous nos faiblesses. Comme dit très bien Fabien, il n'y a que les gens qui n'ont pas de main qui ont les mains propres. Je pense qu'on a tous nos faiblesses. Quand on est fatigué, on dit tous de la merde. Les petites phrases, tout ça.
Mais tu m'as beaucoup fait rire, le j'arrête Magic et tout. Je te l'ai dit, mais oui, c'est ça.
Ouais, mais
t'arrêtes le jeu, toi.
Quand je suis mauvais joueur, je suis vraiment pitoyable.
Et ensuite, du coup, j'ai entendu dire
moche.
Ouais, je sais, je suis moche.
Bon, ça va, on arrête peut-être. On reparle de Cthulhu. Donc, moi, j'ai adoré cette troisième scénar. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une énorme scène. La scène finalement, tous les gentils
la scène finale,
contre tous les méchants. C'est ça, en fait. Il y a les méchants avec les séides de...
Dans la gare, c'est ça ?
De Siegfried Lee. Exactement, dans la gare. Qui sont dans la gare, qui ont pris la gare, qui ont des ombres avec eux parce qu'ils ont invoqué un énorme esprit d'ombre grâce à un cerf-volant suspendu en décoration... devant la gare, dans le hall de la gare. Enfin, c'est
un autre pistolet de Tchekhov qui a été lancé il y a super longtemps.
Ouais, et ça, c'est vraiment un désavantage. Je trouve qu'il y a plein de trucs qu'on va pouvoir utiliser au fur et à mesure de la campagne. Et surtout, il y a un truc quand on arrive à la gare que tu as fait avec la photo que j'ai trouvé trop cool. On voit un Américain, il y a la photo de l'Américain, je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle. Attendez, je vais retrouver
Stuart Tanner.
Et donc, Adrien remet Stuart Tanner en disant vous voyez Stuart Tanner. Et là, Adrien décrit en fait Stuart Tanner qui se fait défoncer la face par l'ombre. Et là, Adrien décroche la photo et la laisse tomber le long de l'écran.
Et il tombe à terre.
Et là, la photo s'éclate et j'ai trouvé ça trop cool. C'est vraiment des trucs que tu peux faire.
J'ai hésité à la déchirer en fait. J'ai vraiment hésité à la déchirer.
Oh, quand même,
on joue pas
pour
Pandémie Legacy. Hein.
Mais après, je me suis dit, bon, peut-être que je la referai jouer à d'autres gens un jour. Donc voilà, mais j'y ai pensé.
Donc, ce qui est intéressant dans cette scène, c'est qu'on a vraiment tous les grands gentils contre tous les grands méchants, les deux sorciers qui s'affrontent, puisqu'il y a le sorcier Siegfried Lee qui a invoqué une énorme créature d'ombre, et le sorcier Guan Ying, qui est donc le japonais, j'allais dire n'importe quoi, le chinois, le maître de Ryulu, qui nous a aidé au départ.
La société secrète, voilà, dont société vous connaissez maintenant le nom, c'est les gardiens. Enfin, vous savez pas des gardiens de quoi, mais ils s'appellent entre les gardiens.
Ouais.
Donc, comme dans Indiana Jones.
Donc c'est vraiment une scène assez intéressante. On voit aussi les ombres des cinq Chinois, les cinq futurs suppliciés qui arrivent dans la rue, qui se font dévorer par l'ombre. Et enfin, on est avec une voiture, on écarte la grande ombre invoquée par le méchant en allumant les phares. Et puis Mei Fang qui justement fait s'envoler pour la conclusion du combat, c'est Mei Fang qui fait s'envoler
le ballon cerf-volant captif qui retenait le cerf-volant.
Voilà, donc le cerf-volant s'envole et avec lui l'ombre, parce que il faut savoir que Sky Fong Lee s'était servi de l'ombre de ce cerf-volant pour invoquer son grand serviteur d'ombre, et donc au moment où le cerf-volant s'envole, l'ombre s'envole avec lui et s'évanouit avec lui. Il y avait dans cette scène un côté pulp, action, avec des magiciens qui s'affrontent, des sbires qui s'affrontent.
Et en même temps extrêmement poétique sur la fin avec le...
Le cerf-volant s'envole et Sai Fon Lee s'en va avec la locomotive. Il y a toute une espèce de code.
Moi je trouve ça super rigolo que ça vous ait touché, parce qu'en fait moi la lecture de ce passage-là, j'étais là, what the fuck. Mais alors... Il y a tout le monde qui est là, c'est genre l'ombre tue ce truc, et puis lui il fait ça, et puis lui il se fait buter, et puis machin, et puis Guan Jin il tombe, et puis il meurt, et son ombre rentre dans le torse de Lonzei. En fait, j'avais l'impression que c'était, le grand mix final, ouais, on mélange tout, on secoue. Et...
Oh c'est l'aventure.
Ouais.
Moi, il y a deux trucs à dire sur cette scène. La première, moi, ce qui m'a touchée, c'est tout le symbolisme. De la même façon que la scène d'ouverture, du coup, me touche par son symbolisme. Là, il y a un symbolisme qui est très présent dans cette scène. Plusieurs choses. La première, c'est que au tout début, de l'exposition, en fait, on récupère des cookies de la fortune qui ont des.
Ça, on n'a pas parlé de ça encore.
Dans lesquels il y a des petits bouts de papier qui sont en fait des indices sur ce qui va se passer, et qu'une bonne partie en fait des petits mots qui étaient marqués sur ces cookies se font vérifier du coup dans cette scène. Et le deuxième, du coup, du point de vue symbolique, c'est hyper intéressant. Tu l'as en fait, c'était. En plus, moi, c'est mon personnage a eu une vision du perso qui donne les cookies de la fortune. Donc, il y a vraiment un côté, genre, ça y est, j'ai des prémonitions, ça y est, il va se passer quelque chose. Et du point de vue symbolique, je trouve ça très réussi parce que du coup, c'est le moment où l'intro s'arrête et à la fin, il ne nous reste qu'un seul papier sur lequel on ne sait pas encore ce que ça veut dire. Et du coup, ça relie aussi ce petit côté symbolique. On est dans la gare, le train s'en va. On sait très bien que ça va être le moment où nous aussi, il va falloir qu'on parte. Au moment où du coup, ce ballon se détache et on sait que c'est le symbole en fait que les PJ vont devoir partir. Ouais, du point de vue symbolique, c'est extrêmement réussi.
La scène des Fortune Cookies, en plus, c'est vraiment intéressante parce que pour les personnages, c'est juste une animation de plus pendant l'inauguration de la gare. Et on sent en tant que joueur que c'est en fait un moment extrêmement onirique parce qu'il y a la locomotive qui produit une énorme fumée qui cache tout le décor, qui produit donc cette espèce de brouillard dans la gare. Et le personnage qui apporte les Fortune Cookies sort de la fumée et qu'on est les seuls à voir en fait.
Et puis tu l'as vu dans une vision au préalable.
Il y a une espèce de bulle dans le temps.
Ce qui est marrant, c'est que tu supposes que vous êtes les seuls à le voir.
On a l'impression.
Vous avez demandé à personne.
Il n'y a qu'à nous qui l'offre des cookies de la fortune. Et je me suis même demandé jusqu'à quel point c'était pas une incarnation du MJ dans le jeu.
Si, complètement. Et je peux même le prouver parce que tout simplement, il y a un truc qu'on n'a pas encore dit, c'est que Adrien Cahuzac a fait les cookies. C'est-à-dire qu'il les a cuisinés avant le scénar. Et au moment où ce personnage arrive, c'est Adrien, en tant que joueur physiquement, qui nous tend les cookies et qui nous les donne. Donc il y a ici un quatrième
D'ailleurs,
mur brisé.
D'ailleurs, la recette, d'après ce que j'ai compris,
il y a la recette des Fortune Cookies sur comment les faire. Alors, ça a l'air simple. Je pense qu'il faut s'entraîner 2-3 fois.
On conseille aux joueurs de mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'huile sur le papier d'aluminium.
Voilà, c'est ça. De ne pas les laisser plus de 3-4 minutes au four parce que sinon ça sèche trop vite après.
Moi je trouve c'est intéressant parce qu'on dit souvent d'un livre de jeu de rôle que c'est aussi une recette de cuisine. C'est notamment Jérôme Larré qui dit ça très souvent. Qu'en fait, un livre de jeu de rôle c'est finalement comme un manuel de cuisine. Et là, il y a le parallèle carrément. C'est-à-dire que le meneur te donne ses cookies, il les a eus dans le bouquin et tout ça. Et puis surtout, c'est les Fortune Cookies, il y a quelque chose d'un peu mystique. C'est-à-dire sous le bonbon. Sucré, le message, le propos,
l'indice pour le joueur. Moi, j'ai trouvé ça, c'était un truc que j'ai beaucoup aimé et qui se résout dans cette scène.
C'est très drôle en plus de lire, parce que donc moi, parmi les deux messages que j'ai trouvés, il y a Cthulhu Ftagmin, donc je sais très bien prononcer en tant que rôliste, lectrice de Lovecraft, tout ça, parce qu'on le prononce tous de la même manière. priori. Et donc il fallait que, donc moi Natacha je lisais ah, c'est rigolo tout ça, et moi il fallait que je le lise dans mon personnage et de le défier. C'est bizarre, on ne sait pas du mandarin, c'est une langue étrange que je découvre, et donc Cthulhu.
j'ai eu cette sensation, c'est un peu comme dans cette scène m'a fait penser à Hurlement, parce que c'est une scène qui est entre la réalité et le jeu de rôle. C'est comme si la réalité donnait des cookies dans la fiction. Il y a un côté un peu les mondes qui s'entremêlent. Intéressant.
Moi, ça m'a aussi beaucoup fait penser au personnage de Classis.
Oui, je voulais pas le dire.
Adrien a l'habitude, quand il cuisine pour ses tables, de faire apparaître la nourriture sur la table des bugs en tant que Classis. Ouais.
Ouais, et du coup, des fois, il arrive avec son cuitasse des bananes et il y a des bananes flambées dans l'assiette.
Moi, ce qui caractérise, je trouve, cette campagne, depuis le début qu'on en parle, c'est le raffinement. C'est-à-dire que c'est de l'horreur raffinée. Les auteurs de ces campagnes sont des fans de l'art chinois, ça se sent. Ils aiment ça, ils ont fait des recherches. Et en fait, tout est raffiné. Le fait que les méchants mangent les ombres, c'est très subtil. Quand on voit les 5 suppliciés au départ, les supplices, c'est pas comme dans Jack l'Éventreur, des couteaux dans la bouche, et puis alors tu vois des sperme dans les yeux.
Et puis ça dégouline de substances verdâtres dont on sait pas trop ce que
voilà,
c'est.
Je trouve l'horreur, l'horreur occidentale, c'est de la boucherie, c'est de la merde. L'horreur asiatique, c'est raffiné. Silent Hill, l'horreur de Silent Hill, l'horreur japonaise dans les jeux vidéo japonais, c'est toujours raffiné, c'est des esprits, c'est malsain. Ring, c'est raffiné.
Il y a 2-3 moments dans Ring.
Moi, j'ai une nuance à faire sur certains films coréens que j'ai vus aussi, mais
Je trouve que l'horreur dans cette campagne.
Je pensais à Old Boy.
Parler du cinéma, alors excusez-moi, je me suis un peu égaré. Mais pour parler de cette campagne, l'horreur tourne autour d'œuvres d'art, d'objets d'art, de spiritualité, de d'ombre, de jeux d'ombre, de théâtre, de voile qui... Enfin, je trouve ça très intéressant. Enfin,
le jeu d'ombre est vraiment... Voilà. Puis ça crée une ambiance...
Tentacules, quoi.
Coup, on est vraiment dans la notion de fantastique où on hésite entre l'explication rationnelle et l'explication surnaturelle.
Il y a toujours moyen de pouvoir retomber sur ses pattes, en plus, comme tu dis, disant « Non, j'ai peut-être mal vu l'ombre » ou quelque chose comme ça. Et puis moi, d'un point de vue purement esthétique, je suis pas tant touchée que ça, moi, par le Moyen-Âge chinois ou les grands trucs japonais. Moi, je trouve que l'époque du XXe siècle, et c'est vraiment une période que j'aime beaucoup, en fait, même à cet endroit-là, je veux dire, dans le monde entier, je trouve que c'est une période qui est foisonnante, où du coup, les choses de l'ancien monde sont réinterprétées à l'aube de l'industriel. Et on retrouve ça, je trouve, un petit peu dans cette campagne où l'industriel réinterprète finalement le passé pour pouvoir le faire revenir sous une autre forme.
Puis ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il y a des petites touches comme ça d'étranges, de monstruosité. Par exemple, quand la guide décrit les objets, elle explique qu'on a du mal à savoir de quelle période ou de quel art il s'agit parce que c'est des objets eux-mêmes en hybride et donc monstrueux, en fait.
Alors ça, c'est moi qui ai improvisé ça.
Ah,
bon. Ça nous vient beaucoup plus.
Ok, bah c'est chouette. Ouais. Mais ça veut dire que quand même la campagne t'a imprégné et a su te faire improviser des choses attendues, tu vois. Donc c'est intéressant quand même.
En tout cas, voilà. Il y a tout un travail sur la fumée, sur du coup la monstruosité aussi de l'industriel, sur la monstruosité de l'administratif quand on lit le journal et que Longsdale explique qu'il s'est retrouvé à éviter à prendre des trains, à être malade, à devoir éviter pas mal de points de contrôle, etc. On découvre ça et je trouve ça me touche beaucoup et c'est quelque chose qui me touche pour le coup beaucoup plus que les Wuxi ou je sais plus quoi.
Wuxia,
c'est ça.
Le royaume combattant. Le point, en fait, c'est que du coup, il y a un côté étranger dans cette horreur, et ça rajoute du contraste et donc de la fascination. Il faut voir aussi que ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que d'un point de vue technique de meneur de jeu, Adrien a mis en place une ambiance musicale intéressante, c'est-à-dire que quand l'horreur est là, ou quand le fantastique est là, il a une musique caractéristique qui semble sortir
du théâtre. J'ai pris deux types de musique. Ouais. Une qui est dédiée vraiment à certaines scènes, et l'autre qui est pour les scènes horreur fantastique plus générique, entre guillemets.
Donc ces musiques qui ressemblent un petit peu à des grandes prières tibétaines où on entend des gens qui font des voix très caverneuses avec des gongs qui sonnent de temps en temps. Enfin, c'est intéressant les musiques que tu avais.
Je ne me rappelle plus des noms, mais on pourra les mettre en commentaire. Ouais.
Donc voilà, ça ajoute aussi à l'univers. Et puis en fait, cette campagne, elle a les défauts de ses qualités. C'est-à-dire que parallèlement à ça, toutes ces symboliques dont on parle et tout ça, elles sont produites par les auteurs de la campagne et pas par les joueurs. Et c'est ça, c'est là que le problème arrive, c'est-à-dire que c'est pour ça que moi je pense qu'on est dans l'assistationnisme, même plus que du participationnisme, c'est qu'en fait c'est une très belle campagne, on la voit se déplier sous nos yeux, on voit que l'auteur de cette campagne est vraiment quelqu'un de très talentueux, qu'il a vraiment travaillé et tout ça, mais quelle place pour les joueurs là-dedans en fait ?
Moi je pense que là pour l'instant on a vécu une intro, et que le moment où on va devenir plus libre, c'est le moment où on va partir. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai. Mmh. Et du coup, comme j'ai l'impression d'avoir vécu une intro, j'ai assisté à une très belle fiction. J'insiste sur le mot fiction, parce que pour le coup, j'ai pas eu l'impression de pouvoir la transformer plus que ça. Mais voilà, je pense que ça va venir après.
D'accord.
Alors moi, j'ai une question, du coup, pour rebondir là-dessus. Vu que j'ai jamais joué d'autres grandes campagnes de Cthulhu, remarque que dans les autres grandes campagnes de Cthulhu, est-ce que... c'est l'impression qu'à Flavie se réalise, c'est-à-dire que les premiers scénars sont un peu de l'intro et qu'après on devient de plus en plus libre, ou est-ce que ça reste quand même un train qui nous guide tout du long ?
Alors, ça dépend lesquels. Alors moi, par exemple, une campagne comme Les Masques, t'as énormément d'éléments en fait, et t'as des aides de jeu sur la table, c'est-à-dire que tu vas avoir beaucoup beaucoup de papiers, beaucoup de documents. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tous les documents te sont donnés au départ. Et si j'ose dire, tout est dit. C'est-à-dire que t'as déjà quasiment tous les éléments pour faire... Donc les joueurs autour de la table sont en situation de maelstrom ou de brainstorm autour des documents. Ils sont là en train de se dire, alors attends, lui, ça doit être lui, il est relié à lui, là, il va y avoir ça à faire. Donc, on va aller là pour vérifier notre hypothèse. Et en fait, on est dans Les Masques de Nyarlathotep, on est vraiment dans de l'enquête sur des documents et du voyage pour la vérification des hypothèses données, ou alors pour l'obtention de nouveaux indices, évidemment. Mais en gros, on est vraiment dans de l'enquête, si j'ose dire, a priori, parce que t'as tous les documents et voilà. Ça, c'est ça, et c'est hyper bien parce que du coup, tu participes. Enfin, là, c'est presque un bac à sable, Les Masques de Nyarlathotep. J'exagère à peine en disant ça. C'est-à-dire que tu fais les choses dans l'ordre que tu veux. Alors après, quand tu décides d'aller à un endroit, là, il y a un certain nombre d'événements qui sont déclenchés et compagnie. Et tu peux même rater des événements. Il y a des choses qui peuvent se passer dans ton dos. Les méchants, en fait, ils ont un agenda. Et donc, du coup, il se passe des choses pendant que toi, tu fais des choses. Je trouvais ça génial. C'est pas ma campagne préférée. Ma campagne préférée, c'est ce que je dis souvent, c'est celle de l'Orient Express. Et là, pour le coup, c'est un toboggan. Mais ça se justifie vachement bien, parce qu'on est, encore une fois, c'est un train. On est sur des rails. Et la campagne, elle est sur des rails. Et en fait, aussi vrai que quand tu es dans un train, tu regardes le paysage défiler, dans l'Orient Express, tu regardes les événements défiler. Avec une ligne rouge quand même, qui est que tu dois obtenir des objets, des artefacts. Et à chaque fois, il y a quand même des procédés, des manières d'aller à ces artefacts. Alors, et c'est là que c'est intéressant, c'est que quand même, par rapport à ces artefacts, il y a très peu d'artefacts que tu obtiens de façon automatique par une voie et une unique voie. C'est quand même aux joueurs de dire comment ils vont réussir à récupérer l'artefact. Donc, tu as quand même énormément d'espace de créativité. Et puis, tu as de l'enquête. Chaque fois que tu récupères l'artefact, tu récupères des informations sur les sociétés secrètes qui cherchent eux aussi à récupérer cet artefact. Et donc, tu es toujours en train de te dire, mais lui, ça se trouve, c'est un gros salaud. Il nous entube parce qu'il est avec un tel. Il travaille pour telle société secrète. Donc, tu as énormément de réflexions quand même, tu as du suspense, tu as de l'enjeu. Là, par exemple, dans cette campagne, moi, je trouve pas. Pour l'instant, hein, comme dit Flavie, moi, je suis d'accord avec Flavie pour dire que c'est une introduction. C'est exactement comme les premiers scénars de Sens Renaissance ou les premiers scénars. Tu vois, je me sens très concerné par ces affaires. C'est ça, c'est-à-dire c'est des scénars où, au départ, tu montres l'univers. Voilà, on va parler de ça. Et là, ça, c'est très bien fait. Le musée, tout ça, on voit, on a les grandes pistes en fait, de recherche.
On présente les grands personnages.
C'est ça.
Et ça me fait penser à un truc aussi.
Ça va commencer, là, je pense.
Du coup, je pense comprendre pourquoi on ne joue pas, finalement, des gens qui viennent de Chine ou qui ont plus que ça des rapports avec la Chine. C'est parce que quand on va arriver là-bas, un des gros soucis qu'on peut voir en fait dans les scénarios où on est censé être chinois ou ce genre de choses, c'est qu'on est censé savoir manœuvrer euh, un, un rituel ou des codes moraux qu'en fait on ne sait pas manœuvrer et au final on fait de la merde quoi. Parce qu'on c'est de la enfin on sait pas on n'est pas chinois donc de 1930 ou par exemple au Moyen-Âge donc on manie mal les codes alors que là le fait qu'on soit des occidentaux qui vont aller là-bas, on va pouvoir être ça va être justifié, c'est pas grave si on n'a pas les codes moraux puisque de toute façon on est occidentaux. Du coup, ça va nous permettre aussi de ne pas être obligés d'avoir par cœur l'asset moral. Et,
ouais, ce que tu sais, c'est la synesthésie. Mais on est comme Marcus, encore une fois, comme dans Indiana Jones 3, donc la dernière croisade. On est comme Marcus, perdu dans les pays arabes, ne sachant pas parler, etc. Des pays étrangers dont on ne connaît pas les cultures et compagnie. Oui, d'accord. Mais le problème de ça, c'est que ça fonctionne bien pour de l'humour en littérature. Mais quand tu es un joueur et que tu veux pouvoir actionner des leviers, le fait de ne pas avoir de bras et de ne pas savoir quel levier tu actives, ça te dépossède de ta responsabilité et ça crée de la frustration.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai créé un sidekick humoristique, je vais me délecter
voilà, tu t'en fous,
de ouais. faire de la merde.
Bah oui.
Je vous le dis tout de suite. Moi, je vais me marrer. Hein. Les codes moraux, les machins, je pense que je vais jouer à fond l'occidental qui comprend rien. Enfin, je sais pas encore comment ça va se passer, mais je pense que je vais me marrer à fond. Moi.
Mais tu vois, je suis pas sûr que l'auteur de cette campagne serait très heureux d'entendre des joueurs. On sait pas. Mais dire ouais, je vais me marrer, quoi. Tu vois, ça se trouve, il a plutôt envie justement d'attirer l'attention sur l'horreur,
le
raffinement.
On peut rigoler. Enfin, j'ai parlé du symbolisme, etc. Maintenant, moi, pour le coup, je joue à Cthulhu. Hein. J'ai créé un truc humoristique. Hein.
Non, mais c'est oui, évidemment qu'on peut faire les deux et on peut aussi s'amuser à réfléchir et compagnie. Ça, c'est évident. Il n'y a pas d'opposition entre l'amusement d'un côté et de l'autre. L'émerveillement
de voir s'envoler le ballon en disant ah, ça y est, c'est l'envol des PJ quoi.
Ouais, mais on est encore une fois dans un jeu de rôle tradit où on ne sait pas vraiment, tu vois, dans quel sens
et
on joue.
Je peux pas vraiment vous dire non plus parce que sinon c'est la part d'illusionnisme quoi. C'est que si je vous dis maintenant, ça peut soit vous décevoir, soit au contraire.
Non, mais justement,
spoiler,
moi j'ai vraiment envie.
Ouais.
Là, j'ai envie de dire voilà, je suis d'accord avec Flavie pour dire on vient de finir l'intro, on y a trouvé les défauts qu'on trouve naturellement dans l'introduction d'une campagne. Je suis désolé, mais ce côté assistationné, on regarde des grands PNJ, grum, mais PNJ sont trop malins. Ça, c'est vraiment le
début d'une campagne.
On
regarde le gros PNJ trop classe avec ses sous-fifres qui, un jour, il va falloir défoncer.
Il n'y a même pas que ça, tu vois. Il y a Liu Chen qui doit être sauvé de l'arcane. Et du coup, ben, si vous n'y arrivez pas, vous, ben, c'est Ryuru qui fait ça tout seul. Alors, du coup, pourquoi tu as fait tes lancers de dés? Je les ai fait pour que bah, si j'y arrivais, c'était moi, et sinon, c'est pas moi. Mais les PNJ sont trop forts.
Donc, ça, bon, bah, c'est. Et maintenant, bah, qu'est-ce que ça va devenir? Alors, est-ce que vous avez une idée? Est-ce qu'on peut faire un petit tour de table?
Qu'est-ce que vous pensez
qu'il va se passer dans la suite?
Je pense que Saïk Fong Lee, c'est pas le plus méchant et qu'il va y avoir un truc encore plus badass derrière, qui en fait manipule Saïk Fong Lee pour pouvoir réveiller les rançonneurs.
Ok, donc là tu parles à long terme et à court terme, genre les deux prochains scénarios, il se passerait quoi à la louche hein.
Bah, il faut qu'on parte, on va passer par Bagdad, je pense, parce que c'est sur le chemin. Enfin, moi, quand j'ai entendu Bagdad, en plus, moi je suis une fan de l'histoire de Dracula, Bagdad, Necronomicon, tout ça, bah, moi j'ai envie d'y aller, hein, je suis désolée. Et je pense que dans un premier temps, on va aller là et que là-bas, on va rencontrer des sociétés secrètes encore. Et un bibliothécaire avec une super grande bibliothèque trop cool.
Il va forcément y avoir une étape grand-père de Liu Chen aussi,
ouais.
Ne serait-ce que pour lui dire « Hé, regardez, j'ai un tatouage, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour empêcher que ça se déclenche ?»
Et au propos, c'est nous qui avons foiré le truc avec votre petite fille et maintenant, ça va être la merde. Vous pouvez me faire un tatouage trop badass pour pouvoir vous aider ?
Ouais. Toi, Romaric ?
Là, j'ai envie de dire qu'on se dirige vers une campagne qui va, dans la structure, ressembler beaucoup plus au masque de Nyarlathotep. On a récupéré le carnet dans lequel il y a le carnet de Lansdale, dans lequel il y a énormément d'indices,
ouais,
de lieux, de personnages à rencontrer. Pardon. Et c'est exactement ça dans les masques de Nyarlathotep. Au départ, tu récupères des données, des informations énormes qu'il va falloir toi-même, en tant que joueur, organiser.
D'accord.
Et tu vas créer en tant que joueur ton agenda. Tu vas dire, bon bah, on ira d'abord rendre visite à ce personnage-là, on ira faire ceci, cela et compagnie. Mais ce que je trouve bizarre, c'est que dans la structure même de l'écriture, tu me dis, il y a des livres et tout ça, il y a des personnages qui... J'ai la sensation qu'il y a plus de linéarité dans cette campagne que dans les masques.
Moi, j'ai la sensation que ne serait-ce que parce que de toute façon, notre voyage va forcément durer plusieurs jours. Et il y a des chances qu'on prenne le transsibérien. Il y a des choses qui vont peut-être ressembler, enfin, j'en sais rien, j'ai pas fait la campagne, mais qui vont peut-être ressembler à l'Orient Express parce qu'on sera sur des rails pendant un petit moment, même si c'est pas tous les scénarios, quoi.
Ça se trouve, cette campagne, c'est une espèce d'énorme foutrac dans lequel le type a mis toutes les campagnes de Cthulhu, c'est-à-dire qu'il va y avoir le petit passage Masque de Nyarlathotep, le petit passage Orient Express à travers le Transsibérien. Il va montrer tout son amour de l'univers de Cthulhu. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que là, à ce stade, on sent qu'il y a un amour de l'univers de Lovecraft qui est.
Il va y avoir des grosses questions politiques aussi, parce que donc on n'arrête pas de nous redire qu'il y a des deux. Enfin, entre les nationalistes et les communistes, il y a des régularités, que les Japonais commencent à mettre leur nez dans l'histoire, et que du coup, il y a trois instances au final politiques qui s'affrontent, de la même manière qu'il y a trois instances mystiques, en quelque sorte.
Et d'un point de vue purement personnel, pour mon personnage, j'espère. Je regarde Adrien avec des petits yeux doux. J'espère sincèrement que mon personnage va être capable de manipuler des ombres à la fin, quoi. Juste, j'ai trop envie d'être trop badass.
Alors là, du coup, je rebondis sur ça, c'est la question justement que je voulais vous poser. Là, après avoir joué ça, vos personnages, ça serait quoi leurs objectifs ? C'est-à-dire, si je vous dis, bon, on enchaîne, vos persos, ils font quoi ? Tout de suite, là. Qu'est-ce que c'est qu'ils vont chercher à faire ? Où est-ce qu'ils vont chercher à aller ? Ça va être quoi leur objectif, tu vois ? Enfin, a priori, vous sentez bien que vous allez devoir aller en Chine, mais vous allez aller où ? Vous allez essayer de voir qui, de faire quoi ? Ça va être quoi votre premier ?
Relire le journal intime de Lansdale.
Mais on voit bien que c'est en tant que joueur. En tant que personnage, moi, ça sera aller voir Guédon, en fait.
D'accord.
Moi, je rêve depuis que je fais de la politique, depuis que mon personnage fait de la politique, je rêve d'être agent secret. Honnêtement, ça me ferait kiffer de devenir ce personnage-là. Et en fait, j'ai déjà croisé Guédon, donc Guédon qui est le personnage qui travaille au ministère. Ouais. On l'a pas encore.
Il est pas baron. Hein.
De quoi ?
Il est juste pas baron, ce mec. Mais vas-y, continue.
D'accord. Bon, ok. Je sais pas. C'est pas ce que c'est que cette histoire.
Il y a des gens qui comprendront.
D'accord. Donc, en tout cas, voilà, on a rencontré ce personnage qui travaille au ministère. Et moi, depuis le départ, ce que je dis, mais moi, ce que je veux, c'est devenir un. Ok. J'accepte tous les risques, mais d'abord, combien c'est payé ? Et faites de moi un agent secret, et je veux le soutien et tout ça. Et en fait, moi, je pense que c'est ça. Je vais aller voir Guédon. Maintenant qu'il est parti, Cy Fondly, moi, je vais aller voir Guédon et je vais lui dire, OK, maintenant, moi, je veux bien devenir agent secret, machin, je veux bien bosser pour vous. On a déjà bien bossé. On a découvert quand même beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous proposez ? Et compagnie. Et puis bon, si en plus, à un moment donné, je peux essayer de draguer Mei Fang et à la fin, embrasser la chinoise, moi, ça me va parfaitement, quoi.
Très bien. Et toi, Natacha ?
Moi, ça va être trouver le grand-père de Liu Chen pour le tatouage, en fait, voir s'il peut faire quelque chose, parce que je sais que c'est le tatoueur. Et donc, du coup, avant de partir, de trouver un prétexte officiel, entre guillemets, pour pouvoir aller en Chine et quitter la saison parisienne et sans avoir sur le dos papa et mon époux qui voudront...
Ah, ton époux, il est encore vivant ?
Bien sûr.
Ah, d'accord. Je sais pas. Je crois que je croyais
c'est le mien qui
est. Ah non, c'est toi qui es veuve, autant pour moi.
Mmh. Ouais, moi, je me vois comme un James. En fait, je réfléchissais pendant que Natacha parlait. En fait, je me vois comme un James Bond des années 30, en fait.
Comme un Hercule Poirot.
Bah ouais, voilà, c'est ça. Un James Bond moins physique, moins action man. Plus Hercule Poirot, voilà, c'est ça. Plus
Tintin.
Ouais, voilà, c'est ça.
Tintin est un peu physique, hein. Il est capable de soulever des locomotives, tu vois.
Ouais, de soulever des locomotives. Non, de sauter des locomotives en marche.
Mais aussi de soulever, de remettre.
C'est pour ça que j'insiste aussi sur le fait, à la fin, d'embrasser ma belle, ma conquête, parce qu'il y a ce côté, l'agent secret un peu viril, le côté James Bond girl.
C'est une James Bond girl. J'ai des images de James Bond au Japon, là, absolument immondes.
Oh là. Vous l'avez revu, celui-là, on ne vit que deux fois, le James Bond.
Il faut le voir pour le racisme ambiant, où c'est absolument immonde, et du coup, quand tu dis ça, j'ai un peu de mal à m'en détacher.
C'est un nain qui est un peu ancien, non ?
Carrément ancien, ouais. À l'époque, en gros, c'est James Bond fait le tour du monde et...
Oui, mais c'est ça.
Et amène avec lui les stéréotypes anglais.
Ouais, c'est ça. Et puis, oui, puis il y a le côté, la réalisation elle-même, c'est-à-dire la façon dont les ninjas sont présentés.
Les ninjas.
Il y a un côté vraiment ultra archétypal.
Ça a l'air sympa.
C'est limite.
Faut le revoir. On a eu des fous rires nerveux.
Mais la musique est très bien. La musique de John Barry. Ça, c'est du top.
Et du coup, quand tu parles de ça, moi, je peux pas m'empêcher d'avoir ces images-là en tête. Et du coup, depuis tout à l'heure, je suis là.
Mais c'est ça. Mais on est là-dedans. Pour moi, on est dans ce code-là. si on joue des Occidentaux qui allons en Mandchourie dans un lieu étranger, si on veut respecter les codes que tu as signalé tout à l'heure, ce côté un peu décalage de l'Occidental qui arrive, c'est moi que v'là le colonisateur, etc. Il faut aller dans ce genre de canon esthétique, je pense. Et toi, Fly, du coup, tu te vois comment là ?
J'en ai aucune idée.
Bah oui, parce que tu n'as
pas. Moi, je pense qu'il faut que. Toi c'est. Oui, si, ton objectif, c'est de l'apprendre de la magie, finalement.
Ouais,
que
ce je soit vais apprendre pour, de la magie.
Vraie magie.
Ouais.
Ouais.
Ouais. Que ce soit pour poutrer les méchants ou au contraire pour toujours dans ton objectif de spectacle.
Ouais, pour découvrir les trucs fantasques, ouais. Pouvoir faire des spectacles encore plus grands et encore plus géniaux. Ouais. Moi, le but de mon perso, je sais plus comment j'avais mis ça, mais je m'amuse comme une folle de mes expériences fantasques et de la découverte.
Mmh. Ouais,
donc,
c'est ça.
Du coup, ben.
Attiré par l'étranger, quoi. Par l'étrange, pour être ouais. aussi. Est-ce que vous aviez d'autres choses à dire ? Moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur.
Ouais,
sur ce
on a fait. Je pense qu'on a fait le tour. J'avais peur qu'on ouais. oublie le marchand ambulant qui vient vous vendre, enfin vous remettre.
Non, c'est intéressant.
Les fortune ouais. cookies, mais.
J'ai beaucoup aimé aussi la manière dont le dragon chinois, donc un espèce de symbole de la nation chinoise, se retrouve là, réexploité dans le mythe de Cthulhu comme étant. Ouais. Une incarnation finalement transformée à travers les âges.
Ce qui est marrant, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas écrit.
Une incarnation du mythe.
Qui n'est pas écrit, mais en fait, quand on voit toutes les illustrations, quand on voit l'illustration de à quoi ressemblerait le messager des tourmentes et qu'on voit à côté une illustration de dragon, bah en fait, c'est une sorte de créature un peu reptilienne, très longue, avec des sortes de moustaches tentaculaires.
J'ai très peur que le grand ancien impliqué ce soit Nidog et qu'il y ait plein de serpents partout.
Et on voit une certaine ressemblance, et du coup, j'ai sauté là-dessus, mais je pense que tous les MJ qui feront jouer ça feront le rapprochement parce que c'est évident.
Moi, ça m'a fait penser aussi à. Il y a un podcast qu'on veut faire depuis longtemps avec toi, Adrien, c'est comment est-ce qu'on prépare nos scénarios ouais. de Cthulhu quand ouais. on fait du one-shot.
Ouais, et
on
s'est rendu compte. Vraiment qu'on le fasse.
On s'est rendu compte en discutant avec Adrien, puis en discutant avec Flavie et Cédric, qu'en fait, on a tous la même manière. Ça, c'est vachement bizarre.
On commence pas le scénario. Je pense qu'on
fera un podcast. Mais ce que je trouve rigolo, c'est qu'on voit que cette campagne a dû probablement commencer comme on le fait nous.
Ouais, je pense. Ouais. Ouais,
complètement. Je pense que à travers de l'histoire, des objets ouais, d'art, ouais. et on extrapole et on voit ce que ça peut donner et compagnie.
Ah,
et
moi donc, je commence pas par ça, moi.
Moi non plus, mais on en reparlera
parce que en tout cas il y a des points de comparaison entre nous tous et c'est intéressant de voir que un jeu de rôle comme Cthulhu avec tout ce qu'on sait de côté un peu foutoir et tout ça crée quand même des comportements de joueurs qui sont quand même identiques et qui se
j'ai
retrouvent
à travers. J'ai une dernière question pour vous tous pour terminer. J'ai une question pour vous tous pour terminer. Moi, j'ai toujours un jeu quand je fais un scénar ou autre chose dans Cthulhu. C'est qui comme grand ancien qui est dedans ? Alors, à votre avis, qui comme
Nidog,
grand ancien ?
Ouais, Nidog, ouais, je pense. Ouais.
Mais il n'y a pas de grand ancien qui s'appelle Nidog.
Je sais pas.
C'est pas Nidog, comment il s'appelle ?
Nidog, c'est un dieu nordique, je crois.
Comment il s'appelle celui qui contrôle les serpents dans les contrées de l'horreur ? Ah, c'est Yig.
Nidog, c'est un truc nordique, Nidog, je crois, je sais plus exactement.
Ah oui, oui.
Moi, je connais pas tous les grands anciens. Ouais. Hein,
donc c'est Yig. Bah moi, en fait, à force de manipuler le jeu de plateau, les contrées de l'horreur, il y en a plein.
Yig, il apparaît dans la forêt amazonienne, dans les contrées de l'horreur. Donc,
bah, c'est pour ça que ça me paraît bizarre. Ça me paraît bizarre que effectivement, ce soit lié à l'Orient, alors qu'en fait, il apparaît en Amérique du Sud. Mais
ils sont partout.
Moi, ce qui est fun, c'est qu'à ce stade-là, je peux pas encore vous répondre.
Ah ouais?
C'est-à-dire que j'ai pas encore lu le dernier livre. C'est sans doute dit dedans.
Donc en fait, et toi, t'as une idée?
Moi, j'ai une idée, ouais. Il y a quand même beaucoup de choses qui m'intéressent.
Il me semble qu'il y a un ancien qui tripe autour des ombres et tout ça. Mais
oui,
exactement.
Il y a l'aspect ombre, ouais. effectivement. Oui.
Enfin, il y en a un spécifiquement. Les ombres de. Je me souviens plus, mais je...
Desteren ?
Non. Non. Non, mais j'ai déjà croisé, en fait, ça dans un scénario et tout ça. Donc, je suis sûr que... Mais je connais pas tous les noms des grands anciens, donc voilà. Je suis pas un spécialiste. Hein.
Ce que j'ai apprécié, moi aussi, c'est que tous les monstres, enfin, les ombres, effectivement, c'est pas un monstre par lequel j'ai l'habitude de me faire attaquer. J'ai croisé plein de chiens de Tyndalos, plein de chauves-souris à tête d'humain, là, je sais plus comment elles s'appellent, plein de migos et tout ça, mais pas encore ce genre de truc.
Les migos, ils vous échangent le cerveau.
C'est pas les bonnes notes sur la fin, là. Faut que tu réécoutes la chanson.
Non, on va éviter.
Moi, je pense que c'est parfait pour terminer le podcast.
Merci Adrien, ouais, on finit en chanson, c'est bien. Merci Adrien de nous avoir présenté cette campagne. Merci Flavie, merci Natacha. À très bientôt tout le monde. Portez-vous bien et surtout jouez bien.